Donc 50 ans d'indépendance, bref bilan socio-économico-culturel, et que faire pour que les 50 prochaines années soient consacrées à l'innovation? Vous me connaissez bien, il est utile que je me présente, non? Vous voulez que je me présente encore?
Oui.
Bon. Je suis Valentin Agon. Comme c'est écrit là, je dirige API Bénin. Moi, j'ai étudié dans plusieurs filières, au moins 4 filières ou 5. J'ai passé ma vie à étudier, je suis encore étudiant comme vous. Hein? J'étudie toujours. Moi, je ne finirai jamais d'étudier parce que depuis 72, 73, que j'ai été piqué par cette ambition de me cultiver, je ne pourrais laisser que quand ma dernière récréation sur la zone. J'étudie encore. Moi, j'ai étudié spécialement le développement. Il y a un programme belge axé sur le développement qui fait une formation qui a déplacé la formation de la Belgique en Afrique, au Burkina Faso. Et donc, il y a cinq pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont souvent invités. Ils font un concours international et on recrute les gens. Moi, j'y étais aussi. On fait une licence. Et puis une licence en éducation et développement, et puis une maîtrise, ils font deux maîtrises. Une maîtrise en pédagogie, vitesse, et puis une autre maîtrise en développement. Pédagogie du changement social et développement. C'est ça ce que nous avons fait. Oui. Mais de l'autre côté, nous avons aussi fait un master en géographie sociale et développement durable. Mais de l'autre côté, nous avons fait un DSS en gestion des entreprises. C'est bon? Mais j'ai aussi fait la filière et santé. Il y a un collège universitaire au Canada qui étudie les médecines alternatives et surtout les plantes. Surtout les plantes. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, on fait un programme fait sur 7 ans, 7 ou 8 ans, où on fait le diplôme d'éducateur, un diplôme de technicien, un diplôme de praticien. Le diplôme de praticien correspond à ce que nous appelons ici maîtrise. Et puis un diplôme de spécialité qui correspond un peu à ce que nous appelons DEA et un doctorat. Donc j'ai fait jusqu'à l'avant-dernière étape. Mais je m'étais intéressé à ce qu'on appelle grec, parce que je voudrais former moi-même des mots. C'était pour ça qu'on m'a aidé à Aix-en-Provence en France pour faire une licence en grec. Évidemment, je n'ai pas fini. Parce que j'étais appelé à faire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc maintenant, je suis doctorant à UCA. Je fais une thèse en développement régional, en économie régionale. Et spécialement développement industriel au Canada. Je fais souvent 3 semaines au Canada et 8 semaines au Bénin. Et pour pouvoir le faire, j'ai créé ma société API Bénin qui finance ma formation. C'est pourquoi je suis présent au Bénin 1 semaine, 10 jours et 3 semaines au Canada. Je pense qu'un étudiant simple ne peut pas faire ça. Le billet coûte déjà des millions. Et c'est parce que je suis utile ici et utile là-bas. Maintenant, je suis ici pour la phase de recherche et fini. Voilà ce que je fais. Je dirige mon entreprise à Pidinet. J'ai un autre cabinet d'expertise en développement avec émergence. C'est pourquoi vous m'avez souvent parlé sur le développement. J'ai un autre cabinet. Vous voyez? Et j'ai lancé un mouvement qu'on appelle CRIADI, le cercle de réflexion, d'invention et d'action pour le développement industriel. C'est des universitaires, des professeurs ici qui sont dans ce mouvement avec moi. Et nous réfléchissons en 5 étapes. Première étape, l'idée. Si quelqu'un a l'idée de quelque chose, regardez cet appareil. On a eu un jour son idée, non? Vous avez beaucoup d'idées tous les jours. Donc, l'idée, c'est la première étape. Et dès qu'on a l'idée, à partir de l'idée, on fait ce qu'on appelle la maquette. La deuxième étape, on fait une maquette. Ce que nous voulons, on essaie de donner une forme à l'idée sur papier. Et à partir de là, on se met à fabriquer cette, idée qui est maintenant, qui a maintenant une forme. Quand on fabrique, la troisième étape, quand on fabrique, on l'essaie. Si on l'essaie, ça ne marche pas, on retourne encore à ceux qui ont fabriqué. On fait ce mouvement jusqu'à ce que l'idée, le produit qu'on a pensé, ce qu'on a pensé, si on l'a réellement dit, maintenant on a le produit. Et il y a une autre équipe qui s'occupe de la rédaction de ce qu'on appelle protection par brevet, la demande de brevet, qui rédige maintenant la demande de brevet et on protège cette invention. Une fois protégée, une fois brevetée, on peut maintenant aller produire. Voilà les cinq étapes du développement industriel. C'est comme ça que vous avez tout ce que vous avez là, comme BIC, comme cahier, c'est comme ça que les autres ont fait. Vous m'avez compris? On part de l'idée, on fait la maquette, c'est-à-dire la forme, on fabrique la chose. Vous pouvez passer par ici. Hein. On fabrique la chose, on l'essaye. Vous avez vu les premiers films d'avion, non? Ça monte, ça tombe, ça monte, ça tombe. Les ingénieurs recommencent et puis modifient un peu la chose jusqu'à savoir que il faut que l'aspiration du vent soit très forte pour que les deux points. Il y a trois points sur l'avion, les ailes là, les deux bouts des ailes et le bout de la queue. Ce sont les trois points là qui gardent l'avion comme ça en haut. Et il ne savait pas qu'il fallait faire la queue et le bout de derrière là, il fallait faire l'équilibre avec le. C'est un triangle, hein. C'est un triangle qui garde l'avion, c'est un triangle comme ça. Donc, dès qu'ils ont repéré qu'il faut l'équilibre derrière là, et c'est au niveau de la queue, si vous voulez que l'avion aille dans ce sens, il bouge la queue comme ça, vous voulez que l'avion aille dans ce sens, vous bougez comme ça. C'est comme ça qu'ils ont repéré et qu'ils ont fabriqué. Donc de l'idée, on va au produit, ben, en suivant l'étape là et en modifiant régulièrement. Que ces petits avions, ils sont maintenant à 380, 1200 places. Alors que l'avion de départ, c'était une place, ensuite deux places. Donc c'est comme ça qu'on évolue. Et pourquoi dans notre cas, nous n'évoluons pas? Vous me comprenez? C'est pourquoi on a fait créer ce cercle-là de réflexion, d'invention et d'action pour le développement industriel, CRIADI, dirigé par NEPO, celui qui dirige, il est au centre béninois de la recherche, c'est aussi BRC. Et il travaille au CRHU, c'est un pédiatre. Voilà donc, mes chers frères, voilà qui je suis et ce que je fais, mais j'ai aussi lancé un mouvement. En matière de développement industriel, j'en ai beaucoup parlé là. Que au Bénin ici là, nous pouvons nous organiser pour créer une banque en mettant de l'argent à côté et permettre que ceux qui sortent de l'école puissent créer des entreprises, les financer. Vous avez appris ça, non? Voilà. Et les gens cotisent 1000 francs. Mais à cause de l'affaire ICC là, nous avons arrêté ça. Pour maintenant penser créer une société. Au lieu d'une fondation où les gens vont apporter de l'argent, parce que la collecte de fonds au Bénin a créé un problème. N'est-ce pas? Il ne faut pas continuer dans ce sens. Donc, nous sommes en train de revoir le système. Voilà ce que nous essayons de faire. Mais moi, j'ai inscrit ma vie pour un seul combat, le développement de l'Afrique. Moi, c'est mon combat, ça. Le développement de l'Afrique. Et vous savez que les autres sont les mêmes que nous, non? Notre couleur, là. Ce n'est pas la couleur de la bassesse, hein? Hein? C'est dommage qu'on dessine le diable avec une couleur noire. Le diable n'a jamais de couleur. Ni Dieu. Dieu n'est pas blanc. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Dieu n'est pas blanc. Donc je dis que c'est aux citoyens d'un pays, d'un continent, de faire le poids du continent. Dans le passé, c'était l'Égypte qui est la puissance au monde. Vous avez appris ça? C'est pas pour rien qu'ils ont fait des pyramides. C'était la puissance du monde. Et c'est là où l'écriture était inventée. C'est là où la civilisation dominait. Mais comme nous n'avons pas su tenir, maintenir notre système, c'est tombé. Et les autres nous ont rendu même esclaves après. Voilà. On va parler de tout ça tout à l'heure. Donc, c'est un double thème. C'est le bilan de ces 4 ans. Mais nous allons essayer de voir le bilan dans 3 sens. Un bilan au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Ici, culturel, ne mettez pas les danses dedans. Si je dis culturel, pensez à l'éducation. Pensez à vous. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, mais que faire pour que les 50 années qui viennent là, que nous avons déjà commencé, soient consacrées, axées sur l'innovation, la création? C'est pour ça que je suis venu à votre rencontre. Et ici, là, nous devons échanger. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le moi. Moi, je suis à vous aujourd'hui. D'accord? Demandez, posez toutes vos questions. Je suis là pour répondre. Alors, le plan de notre sauver. Après notre belle introduction, sur le bilan des 50 ans, nous allons faire un diagnostic. Alors, dans ce diagnostic, nous allons faire un rappel historique. C'est-à-dire, on va reculer au moins à 150 ans. 150 ans ou 200 ans. 50 ans, 50 ans, 50 ans, 4 fois. Vous allez voir ce que je vais faire tout à l'heure. On va faire un bilan économique, un bilan social, un bilan culturel. Et suite à tout ça là, pour que les prochaines années soient vraiment pour l'innovation, on va voir qu'est-ce qu'il faut modifier. Pour moi, il faut modifier le système éducatif. En 2 points. Le contenu et la méthode. Et on va conclure. Ma conclusion est bien longue. On peut évoluer? Alors, on ne va pas seulement faire 50 ans d'indépendance, non. Nous allons faire un état des lieux de la période du commerce dégrillé. On descendra à l'état des lieux de la période des 60 ans d'échanges commerciaux et l'état des lieux de la période des 60 ans de colonisation et enfin de 50 ans. Je veux reculer à partir d'ici là à 200 ans en arrière. Comment? Regardez bien, c'est en 1960 que nous avons eu notre indépendance, n'est-ce pas? Faisons moins 60. Nous tombons où? 1900. Qu'est-ce qui s'est passé en 1900? À la mort du roi Galilée, son fils a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Et lui, sa vie a été consacrée à quel combat? À la résistance. Et ils ont complètement pris le royaume. Si nous montons plus haut, il y avait la rencontre. La rencontre vers 1600 là-bas. Là. Il y avait l'arrivée des missionnaires, des marchands, et c'est vers la fin qu'il y a eu les militaires. Donc, on venait chercher de l'or, beaucoup de choses que nous-mêmes ne considérait pas. On ne connaissait pas la valeur de ce qu'on avait. Et puis, le commerce a glissé, le commerce des valeurs, des choses de valeur au commerce même de l'homme. Et ce sont, dans toute l'Afrique, ce sont les côtiers, ceux qui sont à la côte, qui ont eu les premiers contacts avec les Occidentaux qui arrivaient, qui ont été armés. Ceux-là ont été armés pour aller chasser leurs frères qui sont à l'intérieur de l'Afrique. Vous comprenez? Et ces frères et sœurs sont considérés comme de gros gibiers qu'on devait aller chasser, attraper, et on n'envoyait que les bras valides. Et avec les femmes, on faisait un culling. Vous savez ce qu'on appelle culling en élevage? Culling en élevage, si on regarde les poules, celles qui vont bien pondre, on les reconnaît. Crête bien développée et au niveau de ses os pelviens, les os pelviens bien écartés, ça veut dire qu'elle peut pondre. On regardait les femmes qui ont une large hanche, parce qu'une femme de large hanche accouche facilement. Alors donc, on regardait ces femmes-là et on les sélectionnait pour pouvoir et accouplé ces êtres là-bas pour produire des esclaves encore là-bas, au lieu de venir en acheter. Vous me comprenez? Donc c'est grave. Pendant cette période de traite négrière, on a divisé l'Afrique. Parce que ceux qui sont les côtiers étant armés, ils faisaient plus peur à ceux qui sont à l'intérieur. Ils ne comprenaient plus rien. Nos frères sont devenus des chasseurs d'hommes. Et on allait chasser ceux qui sont à l'intérieur pour les envoyer. C'était grave, mes frères et sœurs. C'était une période noire. Et c'est ça qui a créé la division en Afrique. Et c'est resté dans le subconscient des Africains. Même dans notre pays, là, si vous allez dans le village et vous êtes Dahomey et vous allez vers Marquis là-bas, vous dites Damen. Si on dit ça, c'est pour dire ça rappelle celui qui venait chasser avant. Donc c'est grave. C'était très grave. C'est même gravissime. Ce commerce a évolué, mais il y avait eu des révoltes là-bas. Il y avait eu la révolte au niveau des esclaves, la révolte au niveau même de certains occidentaux qui n'étaient pas d'accord avec ce commerce d'hommes-là. Parce qu'on n'était pas considérés comme des êtres humains. On était considérés moins que les animaux, moins que les chiens que les gens avaient. Donc, on pensait que la peau blanche était une raison d'être supérieure aux autres. Alors, qui a choisi sa couleur? Vous savez quelqu'un qui a choisi sa couleur? On ne choisit pas sa couleur. Et nous-mêmes, nous avons la somme de toutes les couleurs. Mettez toutes les couleurs ensemble, vous aurez quoi? Nous avons la somme de toutes les couleurs. Cela ne veut même pas dire que nous sommes supérieurs aux autres. Nous sommes des égaux. Et la preuve fondamentale, nous naissons avec le même nombre de neurones. Donc, nul n'est supérieur à l'autre au plan humain. Il n'y a pas de race, on dit race noire, race blanche. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, non? Il y a une seule race. Laquelle? Race humaine. Race humaine. Est-ce que vous avez jamais dit que il y a race de manguier? Il y a une variété. Au niveau des manguiers, au niveau des plantes, il y a des variétés. Mais il y a une seule race végétale. Mais il y a des variétés dedans. Et cela plaît à Dieu de varier. Vous comprenez? Mais les autres ont pris rapidement ça, là, cette variation, pour penser qu'ils sont supérieurs à nous. Et c'est ça qui a fait que les gens ont été négriés. Mais en même temps, ils ont des frères qui se sont opposés, vous le savez bien. Et le plus grand encore qu'on retient, c'est qui a aboli la traite négrière. Voilà, lui-là, il a consacré sa vie pour lutter contre ce phénomène-là. Tout comme moi, je consacre ma vie pour le développement de l'Afrique, c'est comme ça qu'il l'a fait. Donc, cela a été arrêté, mais il faut penser rapidement quel commerce il faut faire. Donc, ils sont revenus encore maintenant et sur leur commerce de départ, commerce des choses de valeur, et ça n'a pas duré longtemps. La traite négrière a été abolie en quelle année? 1848. C'était pendant le règne de quel roi à Oumé? Hein? Le roi Aboyago, c'est vrai? Oui? Le roi Guézo. Parce que son règne, c'est 1858. Donc c'était en son temps. Et lui, il a déjà compris. Guézo ne voulait pas continuer la traite négrière. C'est pourquoi il a lancé le palmier à huile pour pouvoir vendre autre chose. Vous comprenez? Et depuis Guézo, là, il n'y avait plus, depuis la fin du roi Guézo, 10 ans avant sa mort, il n'y avait plus le commerce négrier. Il fallait faire maintenant d'autres commerces. Donc, le palmier à huile, des productions agricoles, et on pensait que c'était une relation d'affaires, de commerce. Mais de 48 ou de 50 à 1900, c'est-à-dire 1800, et 50 à 1950 ans après seulement, pendant les 50 ans, les gens ont vu que ce n'est pas très rentable ce commerce-là. Hein? C'était très rentable. Chasser les hommes, acheter les hommes, c'était très rentable. Donc de 50 à 1850 à 1900, ils ont changé de stratégie. Il faut prendre ces territoires. Il ne faut pas aller négocier avec ces gens qui sont inférieurs à nous. Il faut carrément aller les dominer, planter notre drapeau là-bas et ils seront à nous. Vous comprenez? Quelle était la vision au départ? Qu'est-ce que le colonisateur visait? C'était toujours s'accaparer des biens. Donc, des biens étaient, les hommes étaient devenus les biens et on a supprimé ce commerce. Eh bien, on a dit, non, maintenant là, on ne fait plus la traite négrière. On n'achète plus d'hommes. Mais on va les prendre tous maintenant. Et désormais, ils sont nos biens entièrement. Ils sont à nous. C'est ça l'objectif de la colonisation. Et il fallait maintenant lutter contre le système en place pour prendre non seulement le royaume d'Abomé, mais tout le pays entièrement. Mais ils étaient lutter contre le roi Béazin, qui est un homme sérieux, patriote. Le plus grand patriote béninois s'appelle Béazin. Alors ce grand roi Béazin n'a pas accepté, il ne pouvait pas accepter. Il a lutté. Je faisais une recherche en France, j'étais tombé sur quelque chose qui n'est pas connu au Bénin. Je l'ai rapporté dans mon livre. Vous pouvez le télécharger sur mon site personnel ou le site de la Bible. Hein. Voilà. Ça. Personne ne nous a, dans l'histoire, personne ne nous a classé ça. Lorsque j'ai découvert ceci-là, c'est rapporté dans l'encyclopédie et encyclopédie universaliste de 2004. C'est dedans. Permettez-moi de vous lire ce que je laisserai là. Lorsque Gélélé, roi d'Abomé, roi du Dahomé, meurt le 29 décembre 89, son fils Kondo lui succède sous le nom Béazin. Il profite de la saison sèche pour préparer son armée à la lutte contre les Français qui ont reçu des renforts en février 1890. Parce que l'objectif était de coloniser, de finir la colonisation avant la fin du siècle. Vous comprenez? De dominer complètement et de prendre ceux-là avant la fin du siècle. Le 4 mars, une violente attaque des forces dahoméennes sur Cotonou est repoussée. Le 19 avril, Béazin en personne à la tête de plusieurs milliers d'hommes cerne Porto Novo, mais ne peut emporter la ville d'assaut. Des otages français pris à Ouida sont conduits à Abomé. L'un d'eux décrit Béazin. Il a 40 ans environ. C'est un nègre admirable, bien pris, quoique de taille moyenne. La figure est ouverte, intelligente. Le regard est franc et droit. Donc c'est un otage français que les Abomé avaient pris, qui est, lorsqu'il est relâché, c'est lui qui a décrit comme ça Béazin. On n'avait jamais eu une décision assez claire comme ça. L'échange de ces otages est l'occasion de négociations entre les représentants de la France et Béazin. L'accord de Ouida, soulignez bien l'accord, nous y reviendrons, l'accord. L'accord de Ouida, conclu le 30 octobre 1890, reconnaît à la France le protectorat sur Porto Novo en échange d'une rente annuelle. On va nous payer quelque chose et Porto Novo c'est comme le quartier français. Vous comprenez? Mais on va nous payer quelque chose. On nous a pris une partie du pays pour nous payer quelque chose. Les deux parties profitent de ce répit pour se préparer activement à la guerre. Béazin dispose de 15 000 hommes armés de fusils et de couteaux machettes, soulignés aussi machettes, et de 4 000 Amazones pareillement équipés. Il a 5 000 fusils à tir rapide. En face, 800 hommes commandés par le colonel Dodd. 800 seulement contre 19 000 Béninois. Vous me comprenez? 800 Français contre 19 000 Dahoméens, contre nous. Et vous allez analyser tout à l'heure le rapport de force d'avant et de maintenant. Hein? La flotte française établit un blocus des côtes pour arrêter les livraisons d'armes aux Dahoméens. Les Français ont bloqué maintenant les côtes pour que plus personne ne nous livre des armes. Le 23 août arrive en renfort 800 légionnaires de la France, quoi. Deux escadrons de Spartis et un détachement génie. Ceux qui vont faire les routes rapidement et les autres vont passer dessus pour aller prendre tout le pays. Les troupes françaises envahissent alors le Dahomey. Après avoir repoussé les troupes de Béhanzin à Doba, elles franchissent l'Ouémé. Au combat de Kofissa, le 4 octobre 1890, les Français capturent trois Allemands et un Belge qui se trouvaient dans les rangs de l'armée dahoméenne et les fusillent publiquement. Il y avait trois Allemands et un Belge qui étaient avec nous, qui n'étaient pas d'accord avec ce système-là. Et qui combattaient, qui apprenaient aux Dahoméens comment faire. Ce n'étaient pas des espions, c'est des amis. Parce qu'il y avait une division là-bas, entre l'Allemagne, entre la France, il y avait une division là-bas. Donc les gens n'acceptaient pas ce qui se passait. Comment transformer les autres en sous-hommes? Donc les gens percevaient que ce n'était pas bon. Et les Allemands étaient avec nous, avec le Belge. Mais ils ont pu, comme c'est un blanc au milieu des noirs, c'est facile de reconnaître, non? Et donc on devait les noircir de l'indigo. Normalement, ils les ont capturés pour les fusiller publiquement. Malgré les combats qui redoublent, les troupes du colonel Dodd continuent leur progression. Le 4 novembre, notez bien cette date, le 4 novembre, Béhanzin rassemble toutes ses forces. Béhanzin rassemble toutes ses forces. Mais il est battu, son armée presque totalement détruite. 4000 morts et 8000 blessés environ. Et le 16 novembre, le colonel Dodd entre dans Abomé en flammes. Béhanzin tente en vain de négocier. Devant l'intransigeance du gouvernement français, il est contraint de reprendre la lutte. Pourtant, en signe de conciliation, il a livré 5 canons, 150 fusils, puis à nouveau 4 canons et 476 fusils. Tout dit, je ne fais plus la guerre. Traqué, Béhanzin se livre en janvier 1894. Déporté à la Martinique, puis en Algérie, il meurt à Blida le 10 décembre 1906, sans jamais avoir été autorisé à revoir sa patrie. En avril 1928, sa dépouille, ses os, sa dépouille sera solennellement inhumée à Djimé, son pays natal. Nous n'avons pas eu la richesse, cette richesse-là de l'histoire. Vous comprenez? C'est pourquoi, en ayant remarqué, je l'ai intégré dans mon livre, pour un rappel. Vous voyez que l'économie occidentale, pour la santé de l'économie occidentale, il a fallu d'abord faire le commerce négrier. Et comme on a arrêté ça, il fallait changer de nature du commerce. C'est-à-dire le commerce des gens, des biens de valeur. Mais rapidement, il faut sortir de ce commerce-là. Donc pendant les 50 ans d'échange des choses de valeur, ils ont préparé la guerre pour pouvoir prendre non seulement les hommes, mais les pays entiers. Et en 1885, ils se sont réunis pour diviser l'Afrique. C'est ça le Berlin, la rencontre de Berlin qui a commencé en novembre et fini en février. Et chacun a pris sa portion. Moi, je veux ça là. Et sans même nous consulter, l'Afrique a été émiettée, divisée. Le Bénin que nous réclamons maintenant, ce n'est pas notre Bénin. C'est le Bénin que la France voulait, n'est-ce pas? C'est comme ça. Seul, à ce côté, les Nigériens, à l'indépendance, ils ont dit non, 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 on ne va pas rester comme ils nous ont mis. Ils se sont réunis, c'est quoi? Ils ont fait une fédération. Et n'est-ce pas une force aujourd'hui, cette fédération? Alors donc, pour que la santé économique occidentale soit toujours au bénéfice, il faut évoluer autrement. Donc si on allait faire vraiment des commerces, là, ça n'allait pas. Il faut prendre tout. On a les moyens de prendre tout. Donc on a tout pris. Lorsque tout était pris, on a même pris jusqu'au roi. On l'a enlevé. Le plus résistant, on l'a enlevé. Si on est venu enlever votre papa maintenant de votre maison, quel dommage à votre maison. Hein? Quel dommage. On nous a tellement dominé qu'on est venu même attraper le. C'est comme si on prenait notre président aujourd'hui. Qui sera fier? Personne. Celui que nous avons élevé comme ça, là, on l'a pris. On est parti et on ne l'a jamais autorisé à revenir voir son pays. Parce que ce n'est plus son pays. C'est devenu le pays des autres. C'est devenu une partie de l'Empire français. Donc, c'était ça. Et c'était toujours pour la santé économique de l'autre côté. Vous comprenez? C'était toujours pour la santé économique, pour le poids, pour le développement. Et jamais pour notre développement. Donc, le commerce de départ n'était pas pour notre développement. C'était même pour nous tuer, le commerce négrier. C'était grave. C'est l'erreur ou le péché le plus grave, commis par l'Occident en Afrique. C'est d'abord le commerce négrier. Et le second péché le plus grave, c'était la division de l'Afrique. Donc, vous voyez, si vous comptez, c'est toujours 50 ans. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est toujours 50 ans. 50 ans! Là-bas, c'est beaucoup d'années. Mais comme Victor Chechet a interrompu ça, a arrêté ça, l'a supprimé, il fallait changer de mode. C'est une collaboration avec l'intelligence de dominer plus tard. Et la domination a été complète les 10 dernières années du siècle. 1890 à 1900, c'était fini. Pour nous calmer, on a permis que le frère de Béazin, en tout cas Goliago, soit installé pour qu'on voit qu'on continue quoi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Qu'on continue. Donc, c'était ça. Mais tout a été arrêté. Alors, de 1900 à 1960, c'était la colonisation parfaite. Comme on a eu tout le pays, on a complètement dominé. On fait de l'Afrique maintenant ce qu'on veut. Et les hommes, et les femmes, et les biens, sous la terre et sur la terre, c'est les biens des autres. Alors, c'est intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 60 ans là. On nous a complètement dominés et on a mis certains à l'école, on a créé une école du non-colonial, l'école coloniale. On a formé les gens pour que ceux-là puissent bien administrer la gestion coloniale. Qu'on puisse vraiment administrer et ceux qui nous ont dominés là soient bien développés. Bien développés. Et donc, ils ont maintenant l'autorisation, ils ont maintenant le mandat de faire de l'Afrique ce qu'ils voulaient. C'était parfait. Mais quand on met un être humain à l'école, ce n'est pas seulement pour faire ce que vous voulez, c'est pour aussi réaliser son identité, n'est-ce pas? Des gens sortis de cette école coloniale n'étaient plus d'accord avec le système. C'est pourquoi que personne ne soit jamais à la maison, que tout le monde soit à l'école. Vous êtes à l'école prioritairement pour être vous-même. Je dis, vous êtes à l'école non pas pour devenir seulement un médecin, un professeur, ceci. Non, d'abord pour être vous-même. Pour que votre identité soit renforcée, affirmée. C'est d'abord ça. Me comprenez? Vous êtes d'abord à l'école pour ça. Ensuite, pour quand même vivre, vous faites quelque chose. Mais donc, quelques-uns des Africains nationalistes On dit, non, il faut renverser cette affaire-là. Et la Seconde Guerre mondiale a permis, c'était une occasion maintenant de dire non. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont dit, mais la signature, il y a un traité de non-agression. À cause de ça, il faut contraindre tous les pays qui ont des colonies à les relâcher. Et comme les États-Unis, anciennes colonies, ne voulaient pas coloniser aussi, mais si vous voulez, vous voulez être nos amis là, il faut relâcher les autres, il faut que les autres soient libres. Parce que nous, on est libres. D'où, il fallait libérer les pays. Mais la rencontre coloniale était si douce pour certains qu'il y a des Africains qui suppliaient pour ne pas sortir de la colonisation. Ils disaient non, on ne veut pas. Et ce sont eux qui luttaient contre ceux qui voulaient. Les héros de ce temps-là, nous avons, ils sont nombreux, hein? Nous avons les Nkrumah, nous avons encore des gens de notre pays qui vivent encore. Les Agassi étaient en France et luttaient fort pour la colonisation, les procès Agassi. Les Tébouaïdjré, c'était les héros de ce temps-là. Les Lumumba luttaient pour la même cause, pour que l'Afrique soit libérée, pour que l'Afrique puisse penser d'elle-même et agir, qu'elle soit libre vraiment. Donc c'était ça. Et pendant les 60 ans de colonisation, c'est non seulement des problèmes entre les gens profitaient de nous-mêmes, mais il y a des Africains qui luttaient, qui s'opposaient, qui n'étaient pas d'accord. Et l'aboutissement était l'indépendance. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a une conférence qui a eu lieu à Brazzaville où trois options étaient dessinées. Soit vous décidez d'être le territoire français d'outre-mer, c'est-à-dire comme l'île de la Réunion, les autres pays français qui sont dans l'océan Indien là, hein, qui sont français mais à des milliers de kilomètres là, et qui sont noirs. Vous êtes territoire d'outre-mer. Donc c'était plus pour garder l'empire français. Alors, pour garder cet empire, vous devenez territoire d'outre-mer, vous êtes d'accord, vous restez dedans. Ou bien, vous êtes communauté française. Vous pouvez avoir votre assemblée, vous pouvez avoir tout pour vous gérer là-bas, mais vous êtes une communauté encore pour la France. Ou bien, vous dites non, nous sommes libres, on ne veut pas de vous. Dans toute l'Afrique, un seul pays a dit non. Quel pays? Voilà, le président guinéen, Sékou Touré, lui, il a réfléchi et il s'est dit, mais les autres n'ont pas plus de deux testicules que nous. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont plus de deux testicules? Il n'y en a pas. Un gros mâle n'a que deux testicules. Donc il faut dire non à cette histoire-là. Nous pouvons nous prendre en charge. Et lui, il a dit non. Il a vraiment dit non en 1958. Et les autres avaient accepté d'abord les autres options, mais à un moment donné, ils ont dit non. Allons à l'indépendance. Et c'est comme ça que les gens étaient allés à l'indépendance. Le résultat, 50 ans d'indépendance, qu'avons-nous fait? Les gens pensaient qu'on était indépendant. Si vous regardez le film Lumumba, vous allez voir le militaire belge écrit avant indépendance égale après indépendance. Donc c'était ça. Parce que ça va déranger l'économie occidentale. Vous comprenez? Il ne fallait pas que l'économie soit malade. Il fallait que sa santé soit toujours normale. Donc il faut, parce que l'Afrique est remplie, est gorgée de ressources ignorées par les Africains. Prenons la Guinée, la seule. La Guinée a 25 milliards de tonnes de bauxite. 25 milliards de tonnes de bauxite. Vous savez ce qu'on appelle bauxite? Ah, la matière première de laquelle on extrait l'aluminium. Si on prend 4 tonnes de bauxite, il n'y a que la moitié qui soit des déchets. La moitié, c'est-à-dire 2 tonnes, on trouve l'alumine. Et 2 tonnes de l'alumine, on a 1 tonne d'aluminium. Et avec une tonne d'aluminium, vous savez combien d'ordinateurs on peut faire? Beaucoup d'ordinateurs. On peut faire jusqu'à 7 voitures. Une tonne d'aluminium. 7 châssis de voitures. Vous ne voyez pas que c'est de la richesse? On peut faire 600 000 ou 60 000 canettes de boissons, Coca-Cola ou autre chose. Vous ne voyez pas que c'est de la richesse comme ça? Ah. Mais depuis le vieux temps jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne fait rien encore de ses ressources. Rien du tout. Tout est là. Peut-être que ici maintenant, nous sommes aussi assis sur des richesses de là. Nous ne sommes pas du tout curieux. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc on va évoluer. Nous allons parler du bilan. Le bilan en matière de développement économique. Alors pour moi, pendant les 50 ans là, si on devait réussir, on devait créer des entreprises dans 5 ans. On devait agir, créer des entreprises dans 5 domaines. Et c'est dans ces grands domaines-là qui fournissent l'emploi. Vous êtes jeunes, vous êtes appelés à travailler. Alors le premier domaine, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles. Comme je venais de dire, dans notre pays-là, qui exploite nos ressources? Hein? Nous avons les ressources naturelles. Mais est-ce qu'il y a des sociétés qui les exploitent et qui embauchent? Et pendant 50 ans, on n'a jamais voulu exploiter nos ressources. On n'exploite pas nos ressources. Si on exploitait nos ressources, est-ce qu'on aura des chômeurs au Bénin? Non. On n'aura pas des chômeurs au Bénin. On n'exploite pas nos ressources. Deuxième point, production. Non, qu'est-ce que typiquement béninois, on produit? Hein? Au moins ça. On devait avoir beaucoup de sociétés de production. On doit produire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Si vous rentrez, si vous allez dans les pays développés, vous allez voir des fumées sorties de beaucoup d'industries, partout, d'usines. Mais chez nous, ici, ça, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que vous, plus jeunes que nous aujourd'hui, est-ce que vous voulez continuer comme ça? On ne peut pas continuer. Si vous continuez comme ça, vos enfants continueront comme ça. Hein? Si vous continuez comme ça, vos enfants continueront. C'est pourquoi moi je dis, les 50 ans à venir là, il faut qu'on marque une rupture avec l'ancienne façon de faire. On doit rompre avec le processus qui l'a conduit pendant les 50 ans d'indépendance dépendante. Alors, en matière de production, j'ai mis dans ce secteur tout, hein. Production agricole et toutes les formes de production. Prenons la production agricole. S'il vous plaît, si quelqu'un étudie ici et sort maintenant et c'est pour aller faire l'agriculture, est-ce que sa famille sera fière de lui? C'est là où nous avons échoué. Dans notre pays, pour insulter quelqu'un, on ne le désire pas pour Greta Noël. C'est comme ça, non? Ça veut dire que si vous faites la terre, vous êtes maudit. Vous n'êtes rien. Ceux qui font la terre, ce sont les rien. Si vous allez en Amérique, vous allez en Occident, les plus riches sont ceux qui font la terre. Mais chez nous, les plus pauvres sont... Où est le problème? Dans la tête. Très bien. Mais frère, nous avons des problèmes. Nous sommes malades. Et moi, je me prends très au sérieux. Je me prends très au sérieux. Moi, je me prends très au sérieux. Je n'ai même pas le temps de blaguer ni de plaisanter. nous avons de sérieux problèmes. Et c'est comme si on nous a anesthésiés et nous sommes insensibles à notre situation problématique. Nous avons de problèmes, de sérieux et sévères problèmes. Et si quelqu'un a un problème, il s'arrête, non? Je pense que notre assise ici maintenant, c'est aussi une assise pour réfléchir. Comment ceux qui font la terre de l'autre côté sont les plus riches et ceux qui font la terre chez nous ici sont les maudits et les plus pauvres, les miséreux. Ils sont misérables. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. L'école coloniale ne produisait pas des gens pour la terre, ni pour les productions du pays. C'était pour gérer l'agitation coloniale. Mes frères, nous devons révolutionner tout. Nous devons revoir tout et rapidement. Sinon, votre avenir est en danger. Notre avenir est en danger. Nous devons revoir tout. Tout, je dis tout. Sinon, c'est grave. En matière de production agricole, ceux qui sont dedans, ils sont insultés. Et tous ceux qui sont dans les champs veulent tout faire pour aller à Cotonou. Tout le monde veut aller à Cotonou. Et sinon, si son enfant part à Cotonou, on est content. Il est à la capitale, il est à la ville, il est là-bas. Mon enfant, il est à Cotonou. Le papa est fier de ça. Oui, mais c'est sérieux. Parce que le reste du pays est maudit. C'est Cotonou là, le sud, où tout. Cotonou, c'est une métropole créée par le colonisateur. Et c'est là où le colon a créé là. C'est ça qui est bon. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. En matière de production agricole, prenons par exemple notre coton. Qu'est-ce que nous faisons de notre coton? On nous avait vendu brut avant. Hein? On nous arrachait brut. Et encore aujourd'hui, le coton part. Toujours. Qui porte un ami faire au Bénin comme moi, ici maintenant? Il n'y en a pas, hein? C'est moi seul qui porte le coton du Bénin. Au moins. Mes chers frères, une question. Nous sommes les meilleurs producteurs du coton, n'est-ce pas? Notre coton est de qualité. Et nous ne fixons même pas le prix. Vous produisez quelque chose de qualité et vous n'êtes même pas maître du prix. Qui fixe les prix? Et nous sommes fiers d'être les meilleurs producteurs. Comment vous allez produire quelque chose et c'est un autre qui fixe le prix et vous en êtes fiers? Non. Nous sommes les meilleurs producteurs de coton et les meilleurs importateurs de friperies. Qu'est-ce que les friperies? Achita veut dire quoi? Les habits usés. On commence d'abord par le bas. Les slips usés, les dessous usés des autres. On nous vend ça. Hein? Les chemises usées. Les pantalons usés. Tout ce qui est usé. Les voitures, c'est nous sommes même fiers. On fait tout programme sur ça même. Et l'aluminium quitte l'Afrique pour devenir voiture. Et si c'est utilisé là-bas, usé, ça nous revient. Nous sommes une poubelle. Nous sommes une poubelle. On jette ce qui est usé. Moi, j'avais passé 10 jours chez un ami français à la fin de mes études en 94. Et sa fille voulait visiter l'Afrique, elle a préféré venir dans mon pays. Parce qu'il y avait beaucoup parlé de mon pays. En voulant venir passer 10 jours ici au Bénin, elle a des amis qui étaient allés en Afrique une fois, qui lui ont dit qu'il faut remplir deux valises
tes chemises, ils ramassent partout. Demande vraiment partout. C'est dévoré là-bas. Et la dame m'a téléphoné pour dire, votre dernière fille, votre fille, elle a quel âge? Et votre l'aîné à quel âge? Et comment est-ce que vous aimez, ils aiment le blanc ou le noir ou le ceci, rayu? Et je dis, madame, vous voulez faire quoi? Il dit non, et je veux vous amener des chemises usées, etc. Pas chez moi, ça ne vient pas. Nous ne consommons pas. On consomme pas. Et elle a dit bon, que ses amis ne veulent que de remplir deux valises et que c'est dévoré là-bas. Et elle s'excuse. Bon, personne ne s'intéresse à ça là-bas, mais on dit qu'en Afrique, c'est ce que nous consommons. Elle dit oui, madame, malheureusement, c'est ce que nous consommons. Mais comment je ne consomme pas? Comment produire la meilleure qualité de coton au monde et porter les habits usés? Que notre coton a servi à faire là-bas, une fois utilisé, fini, on nous envoie. Et on parfume. Et c'est le même parfum toujours. Ça doit laisser à réfléchir. Et sérieusement, ce que nous disons là, c'est très sérieux. C'est comme si quelqu'un est gravement malade et nous sommes en train de poser les diagnostics, ce pourquoi il est malade, et ça nous fait rire. C'est vrai. Mais, au fond, voyez bien, si ça peut faire rire le malade, qu'est-ce qui se passe? Ok, laissez-le. Bon. C'est très sérieux. Et si nous n'agissons pas aujourd'hui, votre avenir est en... en danger, mes frères et sœurs. Nous devons tout faire pour ne pas être en danger. En matière de production, on ne produit pas. On ne produit pas. On ne produit pas. Quand on produit pour les autres. Quand on exploite les bosses réunies, c'est pour des grandes entreprises en Occident, au Canada, en France, partout. L'uranium de Niger, c'est pour qui maintenant? Oui. Au lieu du nom, au lieu des grandes entreprises pour traiter l'uranium, pour l'énergie en Afrique, tout part, brut, toujours brut. Ça doit laisser réfléchir. C'est très sérieux. On ne peut pas continuer à s'amuser avec sa propre vie. C'est très sérieux. Transformation. Quand on crée des entreprises de transformation, tout le monde doit travailler, non? Hein? Et on transforme quoi? Hein? Le... Vous avez encore des palmerins? Vous connaissez le savon de Marseille? Hein? C'était notre huile ici qu'on envoyait pour le savon de Marseille. Et qui revenait cher. Et lorsque nous étions mis à fabriquer le même savon, ce qu'on appelle Palmida, c'est le même savon, le même contenu, la même manière de faire. Mais on n'a jamais élevé notre savon, le savon Palmida, pour que ça remplace entièrement le savon de Marseille. Et c'était ce qu'on appelait ici au Dahomey à Mijob. On récoltait de l'huile pour envoyer là-bas. C'était pour le savon de Marseille. Mais on étudiait à l'école que base plus huile donne quoi? Savon. Et pourquoi importer des savons? Nous n'avons pas de base. Il n'y a pas de plante qu'on peut, de laquelle on peut extraire de la soupe. Il y en a, non? Et nous importons toujours. Nous ne transformons pas nos ressources. C'est la transformation qui génère plus d'emploi partout au monde. Pourquoi les jeunes meurent aujourd'hui dans l'océan voulant aller là-bas? C'est pour aller travailler, non? C'est pour aller travailler. Parce que toutes les matières premières vont là-bas. Et là-bas, transformation, donc création d'emploi. Normalement, mes frères et sœurs, les gens devaient être en train de se battre pour venir travailler en Afrique. Nous devrions avoir tellement d'emplois que les autres devaient nous affronter pour venir nous supplier pour venir travailler chez nous. Mais c'est nous qui faisons le contraire. Et malheureusement, avant, on venait chercher les robustes ici. Aujourd'hui, c'est les têtes pleines, les têtes bien faites qui vont par des embarcations de fortune et qui se noient. Dans le passé, l'Afrique était noyée. Pendant la traversée de l'Atlantique, on jetait les gens dans la mer. Ceux qui sont malades, les esclaves qui étaient malades, on les jetait. On ne les soignait pas. Les résistants, on les jetait. Donc on noyait une partie de l'Afrique dans la mer. Aujourd'hui, c'est les bien formés de l'Afrique là qui vont se noyer encore dans le même océan. C'est réfléchi ça? Est-ce que c'est réfléchi? C'est grave. Dans le passé, on venait nous chercher ici et c'était un combat. Mais aujourd'hui, c'est avec supplication que nous-mêmes là, nous voulons aller. Il y a un problème, non? Avant, on se battait pour nous chercher. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour y aller. Et on meurt même dans l'océan. Pour ça, nous avons des problèmes. Pour traiter un malade, il faut bien diagnostiquer les mots qui le dérangent. Sinon, vous ne pouvez pas le traiter. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher à savoir où était le problème. On ne transforme pas. Moi, je travaille sur une équation dans ma thèse. Que le développement industriel, c'est-à-dire le développement d'un pays en matière d'industrie, l'installation des industries dans un pays là, répond à une équation. C'est état, d'abord le contexte dans lequel on est, plus l'état, c'est-à-dire le régime qui dirige, fois chercheur, inventeur, entrepreneur, bailleur et consommateur. Dans cette équation-là, vous avez plusieurs composantes. Vous avez le contexte. Si on est en contexte de guerre, est-ce qu'il y a développement? Non. Mais après contexte, vous avez l'État. Et l'État est un facteur. Si l'État est nul, tout est nul. Après l'État, vous avez les chercheurs, les universitaires. Et durant les universitaires maintenant, vont sortir les inventeurs. Et une fois les inventeurs auront produit des choses, on aura des entrepreneurs pour reproduire à grande échelle ces inventions. Et après, pour que les entrepreneurs puissent agir, il faut les bailleurs. Et si on produit, il faut que ça soit consommé. C'est ça, les grandes composantes. L'école est responsable avec l'État pour produire tout cela. Je dis, l'école, le système éducatif est responsable pour produire toutes ces composantes. Et si nous avons fait 50 ans, on n'a pas pu avoir tout cela, toutes ces composantes-là, pour qu'il y ait un essor industriel, il y a alors un problème au plan même éducatif. C'est pourquoi à la fin, nous parlerons de ça. C'est très important. Pour dire ce que le mal, il faut aller au fond. Alors donc, transformation, c'est le contexte, c'est l'État. L'État doit montrer de grandes ambitions. Transformation, c'est les chercheurs. L'université doit être le véritable laboratoire du développement. Je répète, l'université doit être le véritable laboratoire du développement. Pourquoi? Première réponse. Tous les cadres qui gèrent le pays viennent d'où? Si j'ai mal là-bas, ils ont appris ça où? Voilà. Tel père, Et enfant, on dit Amaï, bon, mon nom, oui, oh. Comment? Vimon. C'est comme ça. L'université, c'est là où il faut travailler. Quand l'université veut travailler, c'est fini. Le pays peut aller. C'est l'université qui est le cœur du pays. Quand on met une croix sur l'université, le pays n'existe plus. C'est la pagaille. Vous comprenez? L'université est la plus grande usine productrice du pays. Parce que c'est cette usine que les produits iront agir là-bas, dans tous les autres secteurs. C'est l'université qui est au cœur du pays. Et l'université doit être le véritable laboratoire. Et dans un laboratoire, on cherche, on réfléchit, on examine. C'est ça. Il faut que l'université soit le laboratoire du développement du Bénin. Parce que vous, les produits, en sortant, vous allez refléter le contenu de l'université. C'est très important. Et pour transformer, c'est depuis l'université que tout sort. Comment? C'est à l'université de réfléchir. Notre pays a quel besoin? Les gens ont besoin de quoi? Les gens manifestent quel besoin? Et comment répondre à satisfaire? Comment satisfaire le besoin? C'est l'obligation, le devoir de l'université. Ils ont quel besoin? Nous allons d'abord former des gens pour satisfaire ce besoin. Ils ont quel autre besoin encore? Nous allons former des gens pour chercher des solutions à ces besoins. Et c'est pourquoi il y a les chercheurs dans mon équation là. Les chercheurs, ils recherchent quelle solution pour quel problème. Ou quel problème, et ils vont chercher la solution. Vous ne voyez pas que quand quelque chose de grand sort dans les pays développés, on dit tel professeur avec ses assistants. Vous entendez, non? Tel professeur de telle université, et l'Amérique est fondée sur ça. Ce sont les universités qui font l'Amérique. En Amérique, les gens se battent pour toujours sortir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'ils doivent inventer? L'université est le cœur de l'invention. C'est la flamme de l'invention qui doit brûler l'université. L'université, la flamme qui doit brûler dedans là, et les fumées, c'est les produits que nous aurons. Mais si l'université en Afrique n'est pas dans cette mission, est-ce que nous aurons le développement? On ne peut pas avoir le développement. L'université doit être le laboratoire du développement. C'est à l'intérieur de l'université qu'on réfléchit sur tout. Sur tout, tous les plans, tous les secteurs. Leurs besoins, les besoins alimentaires, les besoins de santé. Il ne faut pas seulement qu'on forme et des agronomes, mais il faut que les agronomes soient capables de produire, d'installer des grandes fermes, de conduire de grandes entreprises agricoles qui peuvent dépasser des milliers de petites fermes qui existent aujourd'hui. L'université, c'est l'excellence. Et cette excellence doit être prouvée. Vous me comprenez? C'est très important. Donc, au niveau de transformation, l'université doit être là. L'université est là. Les chercheurs sont là. C'est là où ils sont. Quand on va modifier notre système pour que la transformation soit le premier objet, le premier objectif, la première préoccupation de l'université, vous allez voir le Bénin bouger. Vous allez commencer par entendre que tel produit est made in Bénin. Tel produit est made in Bénin. C'est ça. C'est le fait de l'université. Donc c'est vous, c'est nous tous. Vous comprenez? C'est ça, c'est très important. Et si on produit des emplois, si on développe le secteur de transformation, on va produire tellement d'emplois que vous allez dire à des amis, non, venez chez nous, venez pour travailler, il y a des emplois. Au lieu que ce soit eux qui vous disent aujourd'hui, montez, on va vous envoyer un billet, vous allez venir. Il y aura des emplois quand on va transformer nos ressources. C'est très important. La commercialisation. On commercialise quoi au Bénin? Hein? Les produits importés. Les produits importés. Je vais poser une question à mon monsieur qui arrive tout droit pour moi. Quand on achète un produit, hein? Quand on achète un produit là, l'argent rentre où? L'argent va où? L'argent va dans le pays où le produit est fabriqué. Donc, si on voulait que beaucoup d'argent rentre au Bénin, on devait faire quoi? On devait fabriquer. Vous voyez, tout le secret, vous le maîtrisez. Merci beaucoup. L'argent va où le produit est fabriqué. L'argent va où le produit est fabriqué. Tout ce que vous portez là, c'est fabriqué où? Ailleurs, non? Tout l'argent là est déjà parti. Pour enrichir les autres. L'argent va toujours où c'est fabriqué. Tout ce que vous fabriquez, là, vous vendez là, l'argent vous revient. Donc, mes chers amis, les autres ont bien fabriqué et nous vendons aussi bien. Donc, ils seront bien riches et nous serons bien pauvres. C'est tellement clair. J'ai donné un exemple il y a 3-4 jours là, à une conférence à Porto-Novo. Notre pays importe plus de 450 000 tonnes de riz par an. N'avons-nous pas de terre? N'avons-nous pas de techniciens agricoles, des agronomes? Puisque celui qui fait le champ est insulté, qui va faire? Qui va rester? Qui va travailler dans les bas-fonds là? Vous connaissez le fleuve Loumé? Vous savez que tout au long de ce grand fleuve du Bénin là, c'est des terres cultivables, la vallée. C'est de la richesse. Mais qui produit quoi dedans? Rien. Nous avons importé 450 000 tonnes de riz. Avez-vous évalué le montant que nous avons fait sortir du Bénin? 400 francs le kilo. Faites-moi le calcul, quelqu'un. 400 francs fois 450 000 tonnes. Une tonne, c'est combien d'abord? Ça fait 180 milliards. Êtes-vous fier d'envoyer 180 milliards aux autres? Vous savez que vous avez aussi envoyé? Vous savez comment vous participez à ça? À ton pas, vous prenez combien de kilos? 2, 3, 5, 25. C'est comme ça qu'on distribue et on rassemble. Mais avant que le riz ne soit là, l'argent était déjà. Et on rassemble encore pour repartir avec. Et l'intermédiaire ne gagne pas beaucoup. Les gens pensent que les commerçants, comme ils gagnent quelque chose dessus là, que c'est bien. Et même l'impôt et les frais de douane là, lorsqu'on importe, la douane prend un bon pourcentage. On a pris l'argent de qui? De nous-mêmes. Ce n'est pas l'argent de celui qui a produit. Hein. C'est le commerçant qui est venu là. On lui a dit, tu vas payer 40% ou 49% pour la douane. Et le commerçant paye. Et il distribue ce montant là sur chaque kilo. Et il doit payer l'impôt. Il distribue encore l'impôt sur chaque kilo. Vous comprenez? Et donc c'est toujours notre argent. Ce n'est pas une richesse. Une richesse vient d'ailleurs. C'est quand il y a rentré les devises là, qu'il y a la richesse. Les gens pensent que quand on importe beaucoup de là, nous aurons beaucoup d'argent à la douane. Non, c'est encore le peu d'argent à l'intérieur qu'on va encore récolter. Soyons intelligents. Vous me comprenez? Faisons des calculs concrets. Ce n'est pas l'argent des Thaïlandais. Hein? Ce n'est pas l'argent des Asiatiques. Hein? C'est l'argent des Béninois. Donc les gens pensent que à la douane là, il y a beaucoup d'argent. Non, c'est l'argent de chacun de nous. À l'impôt, l'impôt là c'est clair, c'est nous-mêmes qui donnons ça. Mais à la douane, on voit que c'est celui qui a importé qui donne l'argent là-bas à la douane, qu'on a prélevé beaucoup, on a eu beaucoup d'argent comme mon taxe douanière. C'est notre argent. Ce n'est pas de l'argent étranger. C'est quand nous produisons et que nous exportons qui a entré de devises. Soyons intelligents pour les 50 ans à venir. Je vous répète, soyons intelligents. Les gens pensent que quand on va beaucoup importer, là, nous serons très riches. Nous serons plus pauvres. Quand on va beaucoup plus importer, nous serons plus pauvres. Parce que tout notre argent sort d'abord et le produit. Par exemple, les 44 000 tonnes, là, 580 milliards. C'est vrai que nous n'avons pas consommé 44 000 tonnes au Bénin. On a importé et on a réexporté sur le Nigeria. Mais c'est notre argent qui était parti et on est parti prendre aussi l'argent du Nigeria pour rentrer. Donc on n'a pas produit. On n'a pas produit. Et si on consomme ces 44 000 tonnes là, qu'est-ce que ça nous donne? On a enrichi que le BC. Simplement. C'est en réalité pour l'économie de l'eau BC qu'on a consommé. On a, ça nous a rien ajouté comme au plan économique, ça nous a rien ajouté. C'est vrai, ça nous a donné la force de parler, de faire des choses, mais on pouvait alors mettre en valeur nos ressources, nos terres, pour produire ces mêmes riz-là. Pourquoi c'est la terre des autres qui doit nous produire ça, et nos terres d'hommes? Vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important que nous devons vraiment réfléchir. Et bien réfléchir. Mais c'est un secteur où il faut produire plus d'emplois. C'est l'administration, la gestion. Et c'est ce que le colonisateur a commencé. C'est quand on fournit bien au précédent secteur qu'on forme des gens pour l'administration. Mais en Afrique, quel est le secteur où on produit plus d'employés? L'administration. Et on va administrer quoi? Il n'y a rien dans ce secteur. Il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a que des commerces. C'est pourquoi on finit sa maîtrise pour aller vendre dans une boutique. Soyez. Est-ce que vous êtes fiers pour ça? Que un détenteur de maîtrise va vendre. Hein? Il va vendre les produits importés. Pressing. Zem. Et quoi encore? Assassiner notre avenir. Et heureusement, comme nous sommes en vie jusqu'à ce mi-siècle, nous devons nous arrêter pour arrêter le processus d'assassinat, de suicide. C'est un suicide. Comment le produit de l'université, l'université qui devait être le laboratoire, produit, ces produits sont devenus des conducteurs de moto. Employé de pressing. Comment, qu'est-ce que quelqu'un qui a une maîtrise en sciences économiques, qu'est-ce qu'il a fait dans une machine à laver? Vous voyez ce que j'ai dit? C'est très sérieux. Nous devons vraiment nous arrêter et nous interroger. Donc, les cinq secteurs, ça ne marche pas. Le dernier qui marche. Et celui, comme ça marche, il n'y a pas de production, il n'y a pas de d'emploi, d'employés, il n'y a pas d'entreprise dans les autres. On forme et les gens vont dans les secteurs informels, c'est des choses qui ne doivent pas les intéresser. Comment peut-être fier de passer tout ça via étudier et d'aller conduire une moto? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour conduire une moto? Non, non, mes frères, ça me fâche moi. Moi, ça me fâche. On ne peut pas aller à l'école pour venir devenir conducteur de moto. Et si vous voyez les fédérations ou les responsables de Zemijapal, ils s'expriment très bien. C'est déjà à respecter. Mais ils n'ont pas trouvé à faire. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Ils ne veulent pas devenir des voleurs. Moi, je ne suis jamais quelqu'un qui est dans l'informel ou quelqu'un qui est sur Zem, non. C'est ce qu'il y a à faire. On n'a pas des entreprises dans ces trois premiers grands secteurs. Le quatrième, commercialisation, ça devait être la commercialisation de nos produits finis. Et aujourd'hui, commercialisation, c'est produits importés. Ça ne nous développe pas. Mais allons plus loin. Nous avons fait 50 ans d'indépendance, que moi j'appelle 50 ans de dépendance économique. Vous savez pourquoi je dis que c'est 50 ans de dépendance? Économiquement, en quoi nous avons été indépendants? Voyons, les entrées d'argent au Bénin, L'argent rentre au Bénin par quelle voie et quelle voie? Hein? Les dons, les subventions, surtout les crédits. Vous n'entendez pas que nous irons à la Banque mondiale pour faire venir tel nombre de milliards. C'est des crédits, hein? La Banque mondiale n'est pas là pour faire des dons, hein? Des subventions. Hein? C'est des crédits. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle crédit? Hein? C'est des dettes, c'est de l'argent de l'autre, placé chez vous, et après vous payez avec. C'est ça. L'argent rentre par là. Considérez le Bénin d'aujourd'hui. Que au Bénin, à l'heure où nous sommes, nous avons peut-être 100 000 milliards de francs CFA. C'est l'argent du Bénin, ça, l'ensemble. Si le Bénin était un grenier, 700 000 milliards, la grande partie est rentrée par les crédits. Parce que si le gouvernement prend les crédits, il distribue aux employés, il distribue dans l'administration. Vous me comprenez? Si un projet arrive, on paye déjà, non? Le crédit est distribué comme ça. Il y a 15 ans, c'était en 1995, que le gouvernement Soglo avait fait la route Boycon-Cotonou là. Maintenant vous allez à Boycon là, c'est dégradé non? C'est-à-dire le crédit là est déjà, c'est consommé déjà, et on doit avoir besoin de nos crédits pour faire une nouvelle route. Vous comprenez? Peut-être que le crédit était prévu pour être payé sur 50 ans ou 100 ans. On a fait à peine 15 ans. Et ce pourquoi le crédit était octroyé, c'est déjà usé. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit qu'en 100 ans, on va faire combien de fois de crédit? Ça fait 15 ans pour mourir. La route fait 15 ans pour mourir. Ça fait combien de fois en 100 ans? Au moins 6 fois, non?
7 fois.
Et le crédit là-bas, 7 fois. Et le crédit va se sommer. Donc, nous irons de dette. Ah, et comme ça, et nos enfants seront surendettés. Leur situation sera pire que la nôtre. S'il y a 15 ans, on a fait cette route et elle est déjà dégradée, on fait 3 heures dessus pour aller à Boycon, au lieu de faire moins d'une heure, en vitesse normale. Les crédits se sortent pour nous. Et nous sommes fiers? Je ne pense pas. Hein? Donc, ce n'est pas les crédits, les subventions, l'exportation de coton et même l'exportation. Il faut savoir ceci. Quand on exporte en Afrique, en zone CFA, tout l'argent ne revient pas. Il faut garder une partie de l'argent pour maintenir le franc CFA. Parce que ce n'est pas notre argent. C'est pour la France. CFA. Hein? Nous poserons les questions après. C'est pour la France. Et c'était un défini dans le franc français. Maintenant le franc français est parti. Et c'est l'euro. C'est la monnaie dans laquelle se retrouvait notre monnaie n'existe même plus. C'est déjà un problème que notre moyen d'achat est détenu par un autre. Ce n'est pas notre argent. Sommes-nous indépendants? Avez-vous remarqué que toutes les colonies, toutes les anciennes colonies anglaises ont leur monnaie et sont plus fortes que nous? Pouvons-nous comparer à Ghana, au Nigeria? Non, nous ne pouvons pas. Voyons les sorties d'argent. L'alimentaire, c'est le premier tuyau. La première route que l'argent prend pour sortir du Bénin s'appelle aliment. N'avez-vous pas mangé aujourd'hui? Qui n'a pas mangé aujourd'hui? Pas encore. Mais vous mangerez. Qui a mangé aujourd'hui? Qui a mangé? Dans ton plat là, il y avait quoi? Curry. Ok. Chaque fois que mes amis, vous allez manger là, essayez de prendre votre plat et regardez dans le plat. Observez bien les composantes de votre plat. Soyez sérieux envers vous-même et regardez le contenu de votre plat. La portion de ce plat-là qui est produite au Bénin, c'est la portion qui a fait garder l'argent au Bénin. Tout le reste qui n'était pas produit au Bénin, l'argent était d'abord parti avant que ça là ne soit dans votre plat. Et on vous a vendu ça juste pour récolter votre argent, pour repartir avec encore. Vous comprenez? Et si le Bénin était un grenier, l'argent ne fait que sortir. Et ça rentre peu. Et ce qui rentre même, c'est crédit. Notre problème sera très grave. Plus grave, plus tard. Économiquement parlant. Donc au plan alimentaire, nous faisons sortir tellement d'argent que s'il y avait une seule route pour qu'on voit comment l'argent sort, la vitesse de sortie est très grande. Elle est très grande. La seconde sortie s'appelle la santé. Si quelqu'un est malade, depuis son arrivée à l'hôpital jusqu'à sa sortie de l'hôpital, à sa guérison, évaluer tout ce qu'on a utilisé pour le traiter. Qu'est-ce qui est fabriqué au Bénin et avec ça on l'a traité. Si rien n'est fabriqué au Bénin pour qu'on le traite, tout l'argent de son traitement est parti où? À l'étranger. Serons-nous fiers? Non. Évoluons. Le vestimentaire. Nous posons le coton et nous importons tout au plan vestimentaire. Vous savez que 10 kilos de coton, ça coûte combien? Le kilo de coton? 210 maintenant. Ça fait 2100 francs. Et lorsque 10 kilos arrivent en pièces, parce que la pièce ne pèse que 10 kilos. Si une pièce de paille là, madame, une pièce là, de paille que les femmes aiment bien là, ça coûte combien? C'est une pièce là. Je parle de la pièce. 60 à 80 000. 10 kilos étaient achetés à 2 000. Et les mêmes 10 kilos reviennent colorés, tissés et coûtant 80 000. Serons-nous riches? Est-ce que nous serons riches? Nous ne serons jamais riches si nous sommes dans ce processus. Donc l'argent sort par le vestimentaire. Maintenant, l'habitat. Prenons ce bâtiment. Ce bâtiment-là, décomposons-le. Il est importé. Ce bâtiment-là est importé. À part le sable et l'eau, qu'avons-nous produit dedans? Parfois. Parce que le bélier de Togo vient parfois le bouclier du Bénin. Vous savez que notre ciment s'appelle bouclier? Et celui de Togo s'appelle comment? Le bélier. Le bélier vient frapper parfois le bouclier. C'est pourquoi il dit parfois. Le bâtiment là est importé. À part l'eau et le sable. Et quelquefois, le ciment. Tout est importé. Même là où vous dormez, c'est importé. Tout. Pour exister, nous importons tout. Nous ne pouvons jamais être riches. Hein. On peut fabriquer que des, on ne peut fabriquer que des pauvres. Toutes les générations qui vont nous suivre là seront pauvres. Et plus pauvres que nous. Vous ne savez pas que au temps colonial ou bien juste la première décennie de l'indépendance, les gens étaient fiers, bien. Moi, j'allais à l'école en 72-73 avec 5 francs et j'amenais 2 francs à la maison. Avec 3 francs, je mangeais correctement et j'amenais encore 2 francs à la maison. Qui va te donner 10 francs pour aller à l'école? 10 francs, c'est trop. Aujourd'hui, même si on te donne 10 000, tu peux avoir encore 20. Hein? Ça veut dire que la situation va s'aggraver plus tard. Donc au plan habitat, importation dans tout. Au plan éducation, vous avez quoi devant vous? Des papiers, non? C'est venu de quoi? Non, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Du bois. N'avons pas du bois en Afrique? Allez au Gabon. Il y a des troncs d'arbres de 8 mètres encore. Des arbres qui ont 8 mètres. 7 mètres, 5 mètres de diamètre. Et tout va dans le bateau. J'étais au Cameroun, je voyais de gros troncs envoyés comme ça sur le bateau. Tout part. Comment un continent entier a décidé son propre suicide? Et nous voulons l'éducation. Nous avons dit tout à l'heure que l'université est le laboratoire de développement. Et le papier qui doit servir, parce que c'est le papier qui coûte plus cher. À l'école comme à l'université, c'est ça, non? Les livres coûtent plus cher. Et l'Afrique envoie tout ce qu'il faut pour produire ces papiers-là. Nous importons tout au plan éducation. Comment nous développer? Alors que, on sait que le levier, le facteur premier de ce développement, c'est l'éducation. Mais mes amis, c'est grave. C'est même gravissime. Les bois, on n'en fait rien. Alors que les bois peuvent nous aider pour l'éducation. Le transport, chacun de nous, on n'a pas volé pour venir ici aujourd'hui. On n'a pas volé. Pour tout déplacement, il faut de carburant. L'Afrique n'a pas de gisement. Au plan transport, ce que nous dépensons chaque jour pour le transport, si vous évaluez, c'est beaucoup. Et nous ne participons pas à l'économie du pays en injectant comme ça l'argent ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des oiseaux qui viennent atterrir au Bénin? Hein? On les appelle comment? Hein? Les avions. C'est de grands oiseaux, non? Dans ces oiseaux, il y a les Béninois. J'ai compté, il y a une dizaine d'avions qui quittent le Bénin pour l'Occident par semaine. Calculons ce que nous dépassons. Dans un avion, il y a 350 places. 50 places pour les touristes et 300 places au moins pour les Béninois, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Vous n'allez pas à l'aéroport? Ah, c'est un marché qui tout un marché de toi qui rentre comme ça. Hein? Les 300 personnes là, c'est 500 000 au moins le billet d'avion, aller-retour. 300 fois 500 000, ça fait combien? 150 millions, n'est-ce pas? 150 millions. Et en une semaine, il y a 10 fois. Ça fait combien? Hein? Une seule personne parle. 150 000, 150 millions fois 10. Hein? Ah bon? Par semaine. Par mois. Combien? 6 milliards. Par an. Combien? Combien? Non. C'est vrai? 72 ans. Comment nous allons apporter 72 milliards à l'économie des autres par an? Et on est fiers, on est content. J'ai pris tel vol. Nous ne pouvons pas avoir une compagnie aussi? Non, nous ne pouvons pas avoir une compagnie aussi? Comment injecter 72 milliards à l'économie des autres? Réfléchissons un peu. Sinon, si nous continuons comme ça là, ce sera pire. Demain sera pire. Demain sera pire. Il faut s'asseoir. Si on est à l'école, on réfléchit. L'école est faite pour réfléchir. Et il y a combien de pays en Afrique? Multiplié par ça. Pour voir ce que l'Afrique sort par an. Et si l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Togo, le Burkina, si nous nous associons, on ne peut pas acheter de grands avions? Pour avoir une compagnie aérienne ouest-africaine où nous allons voyager en paix et retirer l'argent chez nous, c'est la capacité de retirer l'argent ce soir qui vous permet d'être développé. Mais si vous n'avez que la capacité de sortir l'argent de chez vous, ça vous donne la capacité d'être pauvre. C'est comme ça. Si nous continuons comme ça, l'avenir est flou. Et nous n'avons pas d'avenir. Faisons des calculs réels. Ce que le transport nous nous enlève, c'est grave. La communication. Qui n'a pas téléphoné aujourd'hui? Qui n'a pas téléphoné ici aujourd'hui? Qui n'a pas de portable ici aujourd'hui? Tout le monde a un portable, non? Tout le monde téléphone, non? Évaluons un peu ce que nous dépensons par jour. C'est des milliards. Et ceux qui ont ces compagnies-là, ceux qui ont ces entreprises-là, c'est des capitaux qui sont venus d'ailleurs, c'est notre ce sont nos capitaux. C'est des capitaux étranges. Donc tout l'argent part. Calculons un peu. Et secteur de communication qui donne beaucoup de profits, ce sont les capitaux locaux qui devaient se battre pour être les premiers dedans. Et nous y sommes absents. C'est grave, mes frères. C'est pourquoi moi j'ai donné une formule pour la communication. L'entreprise, le Bénin Télécom SA. J'ai dit, moi je suis au Canada. Au Canada, il y a une ville qu'on appelle Québec. C'est là où je suis, à l'université de Québec, à Rimouski. Alors, si vous voulez seulement appeler cette ville-là, c'est-à-dire Québec, c'est 700 millions. Ce sont 7 millions. 7 millions, je dis, d'habitants. Comme le Bénin. Population de Bénin. Si vous voulez appeler les 7 millions de personnes-là, vous payez que 29 dollars. Ça veut dire quoi, 400 francs, hein, combien? Moins de 15 000. Vous comprenez? Vous êtes 12 000 comme ça. Alors, vous payez que ça et vous appelez tout le monde, 8 jours, sans frais. Et tout le monde a le téléphone chez lui. On parle, on appelle l'autre, sans frais. À la fin du mois, vous payez que ça. Imaginons que le Bénin Télécom SA distribuait des téléphones au cas des Béninois. Hein? Et qu'on allait seulement payer 10 000 francs par mois. Ça avait combien par mois? 20 milliards. Si nous sommes 8 millions, le cas c'est 2 millions. Fois 10 000, ça fait 20 milliards. Que Bénin Télécom va récolter sans problème par mois. Et tout le monde va communiquer. Et si on voulait encore de prestige, avoir le secret là. Il y a un secret maintenant portable. Même chose. On distribuait cela. On dit ça à 12 700 par exemple. Et ceux qui veulent être joignables partout, ils prennent ça. Vous regardez l'argent que nous avons rassemblé. Et comme au Canada, on a aussi ouvert à tout Canada. Ceux qui veulent appeler tout Canada, ils payent 50 dollars. Donc on peut payer 15 000 ici. Vous comprenez? Ou appeler encore la région, c'est-à-dire même l'enveloppe du Bénin. Togo, Burkina, Niger, Nigeria. On peut payer que 15 000. Et si on va appeler toute la CDAO, comme au Canada, si on va appeler tous les États-Unis et tout le reste de l'Amérique du Nord, là, on paye 80 dollars par mois. On peut dire on va payer 20 000 ici pour appeler toute la CDAO. Mais ça va marcher, vous allez communiquer entre vous. On ne souffrira pas de la communication. Vous prenez votre téléphone, vous appelez seulement, il n'y a pas question de crédit. Nous allons retenir tout l'argent que aujourd'hui la communication enlève de notre économie. On va tout retenir ici. Soyons intelligents. On ne peut pas être aussi intelligent et être abruti. Un abruti, c'est celui dont le cerveau tourne au ralenti. Nous devons nous arrêter et réfléchir sincèrement. L'énergie, regardez, si ça tourne, ça vient d'où pour tourner? Hein? Ça vient de loin. L'argent sort du pays par l'énergie. Et l'université est là pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut inventer? Et moi, je donne la Corée, l'exemple de la Corée du Sud. S'il y a l'énergie électrique aujourd'hui, en Corée du Sud, c'est grâce à un jeune étudiant de maîtrise. Tu as étudié ça dans votre programme. Un étudiant de maîtrise qui a fait une expérience, qui a allumé une seule ampoule. Aidé par son université, son pays, est devenu un grand générateur, c'est devenu maintenant la source d'énergie pour tout le pays. Donc l'école est là pour le développement. Vous êtes là, vous devez être acteur du développement du Bénin. On doit réfléchir à inventer des choses en matière d'énergie. en matière d'intérêt et les bénéfices sur les capitaux étrangers qui sont chez nous. Les capitaux étrangers sont là pour partir avec les intérêts, n'est-ce pas? Les gens qui viennent, si les gens viennent créer des études dans leur pays, c'est très bien, c'est pour nous donner des emplois. Mais c'est pour partir avec le gros lot. Vous comprenez? Si les capitaux sont dans les banques, c'est pour avoir des intérêts. Donc si l'argent sort du Bénin comme ça, quel résultat? C'est la pauvreté, non? C'est la pauvreté, c'est pourquoi nous sommes pauvres. Ça rentre peu. Et surtout, ça ne rentre pas les crédits. Et ça sort beaucoup. Si vous avez peu d'argent dans la poche et vous devez faire sortir beaucoup d'argent, le résultat est quoi? C'est négatif ou bien c'est positif? C'est moins, non? Oui. Ce n'est que 10 000 francs dans la poche et je dois dépenser 15 000. Ça fait moins 5 000. Donc, ça veut dire que je dois aller courir pour un crédit de 5 000 pour entrer dedans pour que ça sorte encore. Donc c'est ça, mes frères. La situation est gravissime. Je schématise tout ça là en jarre. Regardez cette jarre là. La jarre trouvée du Bénin de Guézola, moi je perçois ça autrement. Hein? Les trois frères d'en haut, c'est. Ici, c'est le crédit. Parce que le crédit, c'est le plus important, n'est-ce pas? Ça, c'est l'entrée de coton et l'ensemble des subventions, tout ça là. Et les sorties, les rouges là, c'est alimentaire qui est bien basse ici là. Si une jarre est trouée à la base c'est l'alimentaire, c'est là où ça sort sous comme ça. Après ça, c'est la santé. Hein? Le transport de l'autre côté. Ainsi de suite. Tout ce que j'avais dit. Tout sort comme ça. Qui va laisser quoi dans cette jarre? D'où notre pauvreté. Nous sommes simplement pauvres à cause de ce fait-là. Et nous ne sommes pas conscients de cette sortie. Et moi, je me suis dit, arrivé à ce demi-siècle-là, il faut tout faire pour que les Africains soient un peu conscients. Peut-être que nous sommes sourds. Je disais il y a 3-4 jours qu'on ne peut pas être sourd toute sa vie. On doit savoir faire des gestes, n'est-ce pas? Et communiquer. Même s'il faut faire des gestes, communiquer aux Béninois, faisons des gestes. D'où nous passons par des images pour frapper un peu la conscience des Béninois. Une jarre trouée, ce n'est pas le doigt, ça n'a pas besoin de le doigt. Ça a besoin de quoi? Ça a besoin de nos entreprises. Créons des entreprises et bouchons les trous. Créons des compagnies, des entreprises et bouchons et barrons la voie à la sortie de l'argent. Et vous allez voir que l'économie de Bénin va se développer et nous allons sortir de la pauvreté. Me comprenez? C'est ça notre situation. Et pendant 50 ans, il y a eu écoulement comme ça du Bénin. Et il y a eu écoulement de l'argent, de nos débits. Et peu d'entrées. Si à entrer ces crédits, notre situation est gravissime. Elle est très très grave. Et nous devons vraiment nous arrêter et modifier. Sinon, l'avenir est en danger. Mais nous devons nous prendre en charge. Nous devons être acteurs de notre avenir. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu fasse que l'avenir soit meilleur. Très bien. Dieu, c'est lui qui connaît l'avenir. Mais c'est à vous de faire l'avenir. Vous devez faire votre avenir. Dieu connaît l'avenir. Mais vous êtes acteurs de l'avenir. Et Dieu aidant, vous allez réaliser cet avenir. Vous me comprenez? Pour réussir au bac, réussir aux examens, vous avez prié Dieu, mais vous avez appris, n'est-ce pas? Hein? Comme ça, ce serait bien. Le destin, c'est Dieu qui le prépare, mais vous êtes les acteurs. Vous devez être l'acteur de votre destin. Pour que notre destin change, nous devons être acteurs de ce changement, de notre destin. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut seulement créer des entreprises pour boucher les 10 trous là. Pour boucher les 10 trous, il faut créer des entreprises et c'est fini. Vous allez voir le Bénin se développer. Mais le bilan de développement social, économique. Il y a quoi? La pauvreté qui s'installe. Les maladies dévorent l'Afrique. La pauvreté, la précarité. J'ai même inventé un mot. La précaculture. La culture de la précarité. On cultive la précarité. C'est pourquoi si on voit un lettré en train de faire un chant, dit ah lui là, mais quoi le gréblouet, à quoi il le grita, il est maudit quoi. Il va rester, il préfère rester chez lui pour ne pas faire le chant de derrière sa maison pour au moins subvenir à ses besoins. Parce que s'il va dans ce chant là, son environnement social va l'insulter au point où il sera maudit. Donc il préfère être misérable dedans que d'être mieux avec sa position. Dans ce schéma-là, on ne peut pas se développer. Et s'il y a un peu d'alerte, il faut des conflits, il faut des guerres. Les amis, c'est grave. Au plan développement et éducation, le colonisateur formait pour son administration. Au niveau précolonial, nos parents, il y avait l'école socio-culturelle. On éduquait l'enfant. C'est pour dire tel père, tel fils. On faisait tout pour que l'enfant soit bien éduqué dans la famille. La famille était la cellule de base. La famille était l'école. Et les gens se formaient quand même. Mais lorsque le gouvernement est arrivé, il a renversé les choses, il a amené l'école, c'est très bien. Mais en même temps, le contenu qu'il a défini pour l'école n'est pas pour notre développement. D'où, pendant toute la colonisation, toute la période coloniale, il n'y a pas eu de développement. Et puisque nous, après la colonisation, à la post-coloniale, nous avons maintenu le même système, nous n'avons pas de développement. Pour que les 50 prochaines années soient pour l'innovation, il faut un système éducatif axé sur l'innovation. Vous savez ce qui nous manque? C'est l'esprit de création. Et si l'esprit de création manque quelque part, il manque l'esprit de la curiosité. Il manque l'esprit de la curiosité. Il faut être curieux. Aiguisez votre curiosité. Soyez très curieux. Et nous allons nous développer. Nous avons fait un essai à Boïcon. Pourquoi la terre de Boïcon a quelle couleur? Notre terre a quelle couleur? Dans le rouge. Pourquoi c'est rouge? C'est le fer. Quelle institution a étudié le fer dans cette terre rouge? Le taux de fer dedans. On sait qu'on a un gisement de fer à Mekou. Mais toute la zone, sous tout le jour, là, la terre est rouge. On dit que c'est rouge parce que c'est le fer, que le taux de fer est très élevé. Nous autres, poussés par notre curiosité, nous avons porté à haute température, chauffé cette terre de Boïcon là. Et nous avons remarqué qu'il y a vraiment du fer dedans. Pourquoi? C'est à l'université qu'on doit faire ça. Chaque fois qu'on dit qu'il y a quelque chose dans quelque chose, c'est à l'université d'essayer de voir. Puisque j'ai dit que l'université est le laboratoire du développement. Vous me comprenez? C'est à l'université qu'on doit être très curieux. Mais il m'a semblé que notre système éducatif n'a pas dans son contenu le développement de la curiosité. Il faut développer la curiosité chez les apprenants. Il faut la curiosité. Il faut que vous soyez très curieux. Vous ne voyez pas que si on met les Africains avec les Occidentaux, l'Occidental est très curieux, n'est-ce pas? Mais nous sommes souvent dans le canal qu'on vous a mis, on évolue déjà comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Soyez curieux. Il nous faut la curiosité. S'il y a la curiosité, il y a la créativité. Et il y a l'innovation. Il faut qu'on commence par développer la curiosité pour toucher à tout. Si vous avez Happy Palu qui qui est notre produit là. C'est la curiosité. Moi j'ai été 3 ans président de la session Fomakopé pendant la révolution. Et donc, moi je suis le produit de l'école nouvelle. Vous n'avez pas connu l'école nouvelle, je pense. Hein? Oui. C'était une école, un système de la révolution du Bénin ici là, qui était assez sûr, on doit savoir faire quelque chose à l'école. Vous comprenez? Qu'on devait savoir faire quelque chose à l'école. Et moi j'ai choisi la session où il fallait chercher à fabriquer des médicaments. Vous n'avez pas vu que ça a fait mon avenir? C'est comme ça. C'est pourquoi à l'école, on fait votre avenir à l'école. On sème la graine de votre avenir à l'école. C'est ce qui va vous marquer fort, fortement à l'école, qui va vous propulser demain. Mais si vous n'êtes marqué par rien, vous irez conduire les émigrants. Ce n'est pas normal. Vous savez que le mangue qui est là, on peut extraire de ça beaucoup de médicaments. Hein? Qui exploite ça? Personne. Tout ce que vous achetez à l'hôpital, aux pharmacies, en pharmacie, comme les vermifuges, les hépatites, qui portent le nom piperazine, piperol, piperol fort, des noms comme ça là. Regardez le radical, pipé, c'est le pépin, pépin, et c'est surtout le manguier. Le pépin, la graine là, hein? Si vous écrasez la graine de manguier là, c'est déjà un vermifuge. Mais quel laboratoire au Bénin exploite ces graines? On mange, on suce et on jette, on suce et on jette. Nous ne sommes pas curieux. Nous devons faire en sorte que le système éducatif soit révolutionné au point où on va développer la curiosité à l'école. L'enfant doit être très curieux. On doit même mettre un processus de développement de curiosité à l'école. Donc, dans ce contenu, il faut développer la curiosité, la créativité, l'innovation. Il faut même imposer à chaque filière à l'université un certain nombre d'inventions par an. Je dis bien, il faut même imposer à chaque filière à l'université un certain nombre d'inventions. Ce secteur doit inventer quelque chose. Même en psychologie, on invente. On doit inventer quelque chose. Et donc, si on dit ça, les gens doivent travailler et faire sortir. Invention, si on dit quelque chose d'invention, ça répond à 3 critères. Ça doit être totalement nouveau. Nouveau, c'est-à-dire ça n'existait pas. Donc, du génie humain, on va faire sortir ça. C'est comme ça. Et ça doit être reproductible à l'échelle industrielle. On peut reproduire ça. On doit reproduire. On va devoir reproduire à grande échelle. Donc, chaque filière à l'université devait présenter ses inventions. Et pourquoi on invente? On invente pour résoudre un problème. Et quel problème nous avons? Beaucoup. On les a vus tout à l'heure. Tous les secteurs, de l'alimentaire jusqu'au transport, nous avons des problèmes. Nous avons des besoins. On va transformer nos besoins en problèmes. Et quitter les problèmes pour trouver des solutions. Et les solutions sont appelées les inventions. Et ceux qui font ça sont les chercheurs. Et ceux qui trouvent les solutions s'appellent les inventeurs. C'est ça. Si nous ne révolutionnons pas le contenu de l'éducation, du système éducatif, nous allons continuer à reproduire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, et finalement, nous serons fatigués. Nous devons modifier les choses à 2 niveaux, au niveau contenu et au niveau méthode. Pour faire sa maîtrise, on va faire la recherche, c'est bien. Mais on va aussi demander à l'étudiant, va réfléchir sur un problème réel du Bénin et va chercher une solution. Dans notre culture, va chercher quelque chose, une méthode ou une manière de faire. Et on va voir comment améliorer. Si on dit ça, et ça doit au moins occuper 60% du point final de la maîtrise. Ah, nous serons créateurs. Vous comprenez? vous allez, on va réveiller le génie en vous. Si on réveille le génie en soi, on cherche partout. Il faut réveiller. Il faut que et le contenu et la méthode soient touchés. Et même j'ajoute quelque chose. Ce que j'ajoute, je voudrais qu'on copie un peu des systèmes qui réussissent au monde, comme celui de la Finlande. Sur quoi moi j'ajoute quelque chose. Il ne doit pas avoir de redoublement. Je vous étonne, non? Une classe comme ça là, personne à la fin de l'année. Tout le monde est là pour réussir, non? Donc le premier exemple est l'enseignant. L'enseignant est le premier exemple. Et on doit lui donner un nombre d'apprenants. Le ratio doit être respecté. 20 maximum par enseignant. Ça veut dire qu'il faut produire beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, en amont. 20. Et les 20, au cours de l'année, bien formés, on passe les examens en mai. Et en mai, si les 20, si 15 réussissent et 5 échouent, on reprend les 5, ils n'ont pas de vacances. Et on garde les matières dans lesquelles ils ont déjà réussi. On ne doit pas reprendre entièrement une classe avec les matières dans lesquelles on avait réussi. Sinon, quelle est cette fête là? C'est une fête, non? Peut-être déjà vont au bac et ils ont 9, ils échouent. Et encore l'année prochaine, ils reprennent encore tout. Prouvant que le système n'avance pas. Ce en quoi tu as déjà réussi. C'est-à-dire que tu comprends bien ça là. On te conserve tes points et les matières dans lesquelles tu as échoué, tu reprends ces matières rapidement, en un mois et demi, et tu repasses l'examen dans ces matières seulement. En Finlande, c'est comme ça. Et on vient ajouter à ce que tu avais fait, et tu réussis, tu passes comme les autres. Parce qu'il te manquait certaines choses, c'est pourquoi tu as échoué. Et on t'a actualisé rapidement, et tu es déjà au point avec les autres. Ceux qui vont échouer, on les reprend encore août, septembre, pour encore les former et qu'ils passent encore les amis dans ce en quoi ils ont joué. Vous ne voyez pas? Et comme ça, le quota, l'entièrement, tout le monde est parti. Mais seulement ceux-là n'ont pas eu de vacances. Donc, pour avoir tes vacances, tu dois te battre pour étudier. L'école n'est pas là pour renvoyer des gens et garder les autres. L'école est là pour former tout le monde. Pas de doublant. On ne doit avoir aucun doublant. Si on le doublant, quel est son destin? Lui, il est fait pour quoi? Il va où? Vous me comprenez? Le système que nous avons hérité de la colonisation ne nous développera pas. Tant qu'on ne va pas modifier et faire réussir tout le monde, si nous nous basons sur la discrimination, nous n'aurons pas de développement. Est-ce que vous avez compris le système que je propose? C'est ça la révolution du système éducatif. Tout le monde, ceux qui ont fait la classe l'année dernière, ils se retrouvent en classe supérieure l'année suivante. Et en aval, ceux les premiers qui sont sortis sont devenus des créateurs d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. Vous sortez, vous rentrez dedans. L'université au Bénin produit 15 000 personnes prêtes à travailler par an. Et il n'y a même pas emploi pour les 15 000. Vous voyez pas que c'est grave? Est-ce que des 15 000, il y a 2 000 qui trouvent l'emploi? Non. Sinon, c'est 300. 300 sur les 15 000. C'est vrai? Tu as les chiffres? Il a dit 300 sur 15 000. Les amis, même si c'est 5 000 sur 15 000, c'est déjà grave. C'est très grave. Et donc, puisqu'on ne peut pas employer les gens, puisqu'on ne peut pas les recevoir, le système est fait pour déployer certains. Ceux qui ont échoué une fois ou deux fois sont renvoyés. Vous comprenez? Parce qu'en aval, on ne peut pas les utiliser. Il n'y a rien pour les accueillir. Il n'y a même pas d'université ni de collège. Il n'y a pas d'école pour recevoir les gens. Mes amis, nous sommes malades de la tête aux pieds. Et il nous revient de réfléchir. Nous faisons un bilan des 50 ans. Et pour que les 50 prochaines années soient meilleures, c'est ce qu'il faut. Ce que je propose là. L'école n'est pas là pour décourager certains et encourager les autres. L'école est là pour former l'avenir. Donc, pas de découragement. On doit faire en sorte que ceux qui rentrent à l'école, si on rentre à l'école, moi j'ai fait Cuba. Hein? J'ai fait Cuba. Le diplôme, le minimum, vous savez lequel? Le minimum qu'on doit avoir avant de quitter l'école, c'est la licence. Et tout le monde, l'école est obligatoire et gratuite. Si un parent ne met pas son enfant à l'école, il est traduit au tribunal. C'est-à-dire qu'il assassine l'avenir du pays. Le niveau minimum d'un chauffeur, quelqu'un doit trouver comme ça, c'est la licence. Vous ne voyez pas que c'est le développement comme ça? Et ça ne nous coûtera rien. La peur qu'on a est qu'il n'y a pas d'accueil pour ceux qui vont sortir en grand nombre comme ça. Mais il faut alors produire, il faut aller dans les cinq secteurs là et repositionner les cinq secteurs et tout le monde aura d'emploi au point où nous aurons même des gens qui demandent, des gens qui vont chercher à venir chez nous pour travailler. Les cinq secteurs, les quatre premiers doivent être développés. On doit être dans ces entreprises. Des entreprises doivent être dans ces secteurs pour accueillir un grand nombre de ce système que je propose. L'école n'est pas là pour condamner des gens et dire aux autres, tu es nul. On ne doit même jamais donner nul à quelqu'un. On doit chercher à savoir qu'est-ce que je lui ai enseigné, il est nul. Me comprenez? Qu'est-ce que je lui ai donné et il est nul. Si quelqu'un a un problème mental, cérébral, on peut comprendre. Il ne peut rien comprendre. Là, il est un malade. Il n'est pas un élève ni un étudiant normal. Mais si un étudiant normal comme vous, on ne peut pas l'appeler nul. Jamais on doit écrire nul à quelqu'un. Si on écrit nul, c'est grave. Donc l'école doit tout faire pour former l'avenir du pays, pour que les gens qui sortent là soient bien formés pour des emplois qui les attendent. Très important. Et la méthode, c'est celle que j'ai développée. Et ça, si on peut emprunter un peu, vous allez voir que 50 ans après, vous qui serez là, nous qui serons témoins encore là, Dieu voulant, nous serons fiers d'avoir modifié le cours de notre histoire lorsque nous avons fait 50 ans d'indépendance. Nous avons choisi de modifier le cours de notre histoire. Et cette révolution du système éducatif doit aboutir à une mise en place d'un système qui est producteur de cadres entrepreneurs, innovateurs, créateurs, curieux. Et il y aura une adéquation entre formation et emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi et on a peur de former. Vous ne savez pas que vous faites peur? Quand on est là et vous sortez là, grand nombre comme ça, ça fait peur. Ça fait peur. On dit, ils sortent pour quel avenir? Ils sortent pour quel avenir? Ça fait peur. Mais moi, je suis optimiste. Parce que des gens comme vous qui êtes ici là, avec vous seul, on peut déjà modifier le cours de cette histoire si chacun de vous devient un génie créateur. Avec le peu que moi j'ai réalisé, vous savez combien d'emplois on a créé l'année passée? Voilà le directeur commercial de Happy Bénin à côté de moi. On a embauché combien l'année passée?
250
en une semaine. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de transformation qu'on n'embauche pas. Vous me comprenez? Je compte sur nous tous et je compte sur vous parce que vous avez eu ce privilège de communiquer avec moi et je vous transmets mon savoir et mon savoir-faire pour que vous deveniez mieux que moi. Vous me comprenez? Il faut devenir mieux que moi pour me dépasser. Si moi j'embauche 250, à vous d'embaucher 500 prochainement. En conclusion, ma conclusion a trois parties. La première partie, je voudrais vous parler de l'intégration régionale pour le développement du Bénin. Intégration en deux points. Économique et même éducatif aussi. Parce que si nous formons les gens que pour le Bénin, ça n'ira pas. Si nous voulons nous développer et développer que le Bénin, ça n'ira pas. Donc il faut l'intégration régionale. Il faut considérer, il faut sauter les verrous du schéma du colonisateur. Il faut sauter les barrières dans lesquelles le colonisateur nous a mis pour nous appeler Bénin à part, Togo à part, Nigeria à part. Là-bas, ils sont déjà union et ils sont forts avec une monnaie forte. Et nous, émiettés et dépendants, mendiants, ça peut aller comme ça? Non, fâchez-vous. Dites maintenant non. Non pas pour aller comme quelqu'un. Arrêtons-nous. Nous sommes les mêmes humains que les autres, non? Nous avons les mêmes sentiments. Nous pouvons être heureux, nous pouvons être malheureux, nous pouvons nous fâcher aussi. Mais pour nous fâcher, nous devons nous fâcher d'abord contre nous-mêmes. N'est-ce pas? Comment les gens sont unis là-bas, ils sont forts, et nous on est divisés pour être faibles. Donc, fâchons-nous contre nous-mêmes et modifions les choses et nous allons réussir. Au second point, je parlerai de moi, mon grand rêve. Moi, j'ai un rêve en 4 points. Et puis, je vais vous laisser 3 mots importants qui vont vous accompagner et que vous n'avez plus jamais oublié. Alors, l'intégration régionale. La régionalisation de l'éducation. Si nous avons un système qui va révolutionner notre développement ici, il faut le dire au Nigeria, il faut le dire au Burkina, il faut le dire à ceux qui nous entourent, pour que notre seule hirondelle ne tente pas faire le printemps. Nous devons nous associer avec les autres pour être forts. Donc, au plan éducation d'abord, à la base, l'éducation que nous aurons, je vous dis, l'éducation dans les pays anglophones les fait plus développer que l'éducation dans les pays francophones. Vous êtes d'accord? Ils sont créateurs. Les gens qui sont au Niger auprès de nous, les gens de l'Accra, ils sont créateurs. Mais nous sommes consommateurs. Faisons en sorte qu'il y ait un même système, une approche de système éducatif qui répond aux exigences que j'ai précédemment soulignées. Et vous allez voir, dans notre sous-région, nous allons modifier le cours de notre histoire. Mais ne restons pas là. Allons-y à la régionalisation de notre économie. Pour juguler, pour barrer la route, au rouleau compresseur qu'est la mondialisation. Parce que vous n'avez pas remarqué, il y a 200 ans, c'était la tête négrière. Il y a 150 ans, c'était les échanges pour aboutir à la colonisation. Et il y a 100 ans, c'était le début de la colonisation. C'était la colonisation. Et depuis 50 ans, la mondialisation a commencé. Et nous en sommes maintenant au sommet. Victime, n'est-ce pas? Le système contre lequel nous devons nous armer s'appelle mondialisation. La libéralisation de l'économie. Nous devons tout faire pour nous réunir. Voyons, comme je vous ai donné un exemple tout à l'heure, avec le Nigeria, avec les autres, si nous formons une compagnie ouest-africaine, une compagnie aérienne ouest-africaine, est-ce que nous n'allons pas créer beaucoup d'emplois? Est-ce que nous n'allons pas garder notre argent en matière de transport chez nous? On doit le garder ici, non? Mais tout l'argent là part. Mais les autres ont fait des associations. Les avions qui viennent ici, ce n'est pas pour un seul pays, c'est pour plusieurs pays. Mais nous ne voulons pas avoir une intelligence de nous réunir. C'est comme si nous ne sommes même pas capables de dire non au schéma du colonisateur, non à ce schéma qu'on a prévu pour nous, qu'on a fait pour nous. Nous n'avons même pas décidé. Les tracés là qu'on a fait pour nous séparer là, qui de nous a participé à ça? Personne. Qui était au congrès de Berlin? Personne. Raison pour laquelle ils ont dit, nous ne connaissons pas alors les clauses de ce congrès-là. On refuse ces limites-là. Et puis on s'intègre. On devient fort. Très fort. Si le Nigeria avait accepté ça, L'union était, c'était plusieurs. Hein. Et ils se sont unis pour rester fédération. Et c'est à cause de leur fédération qu'ils ont un grand poids. Un grand poids. Si le Nigeria tous, nous on a comment ici. C'est à cause de cette fédération. Et si nous nous mettons ensemble, on deviendra alors plus fort. Donc c'est la régionalisation de l'économie qui va nous permettre de résoudre vite nos problèmes au lieu que le Bénin seul aille agir, aille faire ceci. Agissons ensemble et nous serons forts. Prenons un exemple. Si en Afrique de l'Ouest, nous avions une équipe de football où il y a Didier Drogba, où il y a Samuel Eto'o, où il y a tous ceux-là qui font les forces en Occident, nous aurons la plus grande, la plus forte équipe du monde, non? Quelle équipe au monde va nous battre? Hein? Il y en aura? Il n'y en aura pas! Et pourquoi ne pas se mettre ensemble pour former un ensemble fort, une équipe forte et détenir la puissance au monde? Hein? Est-ce qu'on nous a aussi volé notre intelligence? Donc nous devons vraiment voir la mise ensemble pour être très fort. Au niveau même de l'intérieur, Cotonou, hein, c'est, Cotonou est fabriqué par la France. Les capitales, les villes, les grandes villes, capitales économiques des pays africains là, sont créées par le colonisateur. On les appelle des métropoles, n'est-ce pas? Et ces métropoles existent pour soutenir la grande métropole qui est en Occident. Soit à London, soit à Paris, c'est ça. Vous comprenez? Et ce système-là qui nous a conduit là s'appelle la métropolisation. Et c'est la même chose. Tout Cotonou travaille pour l'Europe, pour Paris, pour la grande métropole Paris. Tout ce qui se fait ici-là, c'est pour enrichir là-bas. Et c'est pourquoi le colonisateur a pris le soin. Lorsque le pays était pris, on a fait les voies ferrées pour s'arrêter à Parakou. Toutes les voies dans le pays arrivent à Cotonou et rentrent dans la mer. N'est-ce pas? Si vous allez au Togo, là, vous allez voir le phosphate ramper pour rentrer dans un bateau là-bas. Vous ne voyez pas, non? Quelque chose qui rentre là. Vous remarquez ça, non? Directement dans le bateau. Donc, tout ce qu'on fait dans les capitales économiques des pays, anciennes colonies, c'est pour le développement de la métropole. Et à l'intérieur, tout ce qu'on fait dans le pays, c'est pour le développement de Cotonou. Cotonou qui développe l'autre. C'est le programme de notre sous-développement, la métropolisation. Nous devons plutôt faire la métapolisation. C'est-à-dire quoi? Créer des pôles à l'intérieur du pays, des métapôles. Au lieu de développer Cotonou, développons l'intérieur et vous serez fiers. Maintenant, tout le monde court pour Cotonou, tout le monde court pour Cotonou. Et Cotonou est là pour soutenir les sérieux. Tout ce que tu fais à Cotonou, c'est pour envoyer l'argent à les sérieux. Développons des industries à l'intérieur du pays et vous allez voir, plus personne ne dira c'est Cotonou ou il y a la belle vie. La belle vie sera partout. Tant que nous n'irons pas à la métabolisation de notre économie, nous allons courir, courir et courir en vain. Ça ne marchera pas. Mon rêve est en 4 points. Moi, j'ai dit, j'ai un grand rêve. Et que mon rêve, c'est être témoin oculaire. Avec mes yeux, je veux voir l'émergence de notre continent, devenant une seule nation. Les États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi j'ai écrit ce bouquin-là. Pourquoi et comment constituer les États-Unis d'Afrique? Et j'ai en même temps analysé les problèmes du retard de l'Afrique dedans. C'est téléchargeable gratuit. Sur le site apibenin.com. www.apibenin.com. Donc, c'est mon premier rêve, ça. Le second rêve. Mon rêve est de vivre dans une Afrique qui ne sera plus désirée. Parce que partout au monde, là, en Amérique, partout je voyage, pour désirer l'Afrique, on dit que l'Afrique, c'est la pauvreté. C'est là où les gens ne s'habillent pas. Ils ont besoin des habits usés. Ils ont besoin des dessous usés des autres. Non. Mon rêve, c'est de voir une Afrique, de vivre dans une Afrique qui ne sera plus désirée par la pauvreté, la précarité, la misère, la mendicité. J'étais chez ma tutrice à Strasbourg et j'ai vu des lettres empilées comme ça, rien que demandant, rien que pour demander, des lettres de mendicité chez elle. Toutes les lettres envoyées en Occident, c'est pour donnez-moi ceci, nous avons besoin de ceci. Et c'est pourquoi, dans notre pays, le système, l'industrie que nous appelons l'industrie associative, c'est-à-dire, on crée tous les jours des ONG, n'est-ce pas? Hein? Tout ce qu'on sait faire ici, c'est créer des ONG et non des entreprises. Et c'est pour demander. Je ne voudrais plus voir l'Afrique mendiant comme ça, des autres. La dépendance, l'attentif, on attend. N'attendez jamais. Si vous sortez d'ici là, de l'université, n'attendez pas qu'on vous offre un emploi. Cherchez l'emploi pour créer l'emploi. L'assistentialisme, on attend qu'on vienne nous assister. J'ai fait sortir un nouveau mot, l'Africophagie. Dans l'Africophagie, nous avons l'Afrique et Phagie. C'est comme anthropophagie. Ceux qui mangent l'homme s'appellent comment? Anthropophage. Anthropos. L'anthropos, en grec, c'est l'homme. C'est-à-dire l'être qui regarde devant lui. L'être qui regarde devant lui. L'être qui regarde en haut. Et l'animal, c'est l'être qui regarde la terre. Regardez tous les animaux, ils regardent où? Les animaux regardent où? Les hommes doivent regarder où? Donc, ne regardons pas la terre, ne regardons pas en bas. Levons nos regards pour nous développer. Et il y a des gens qui mangent l'Afrique. C'est ceux-là que j'appelle les africophages. Ils mangent l'Afrique. On doit arrêter l'africophagie. L'Afrique agriculture, j'en avais parlé, les guerres, les conflits, les divisions et les maux qui nous caractérisent toujours. Ça, mon rêve, c'est que nous soyons une Afrique où il n'y a plus ça. Mon rêve est de voir cette Afrique du Caire, de l'Égypte là-bas, jusqu'à l'Afrique du Sud, jusqu'au Johannesburg. Je voudrais voir cette Afrique du Caire au Johannesburg remplie de diverses industries, transformant et mettant en valeur les ressources africaines, créant les valeurs ajoutées au point où nous offrions du travail aux chômeurs expatriés. Déjà, vous voyagez pour venir travailler chez nous. Si nous avons dans notre crâne, dans notre boîte crânienne, le cerveau et non la bouse de vache, si nous ne changeons pas les choses, c'est comme si nous avons de la bouse de vache. C'est comme si nous ne sommes pas nés avec le même cerveau que les autres. Alors que nous sommes nés avec le même cerveau, nous avons le même nombre de neurones. Pourquoi pas dépasser les autres? Nous devons les dépasser. Notre histoire est riche. Prenons de notre histoire pour dépasser les gens. Moi, je ne voudrais pas que nous soyons toujours demandants. Nous pouvons maintenant offrir. Et le dernier point, mon rêve est de voir le désert. C'est le grand défi. Le désert de Sahara, un océan détendu de sable, devenir vert et fleurir, qui va devenir un lieu de production des vivres, et il n'existera plus cet océan inutile. Vous en êtes capable? Vous en êtes capable? Nous en sommes capables. Nous sommes capables. Si Israël a modifié le désert qui est devenu Tel Aviv, et c'est vert, le désert est vert, pour verdir un lieu, il faut quoi? Il faut de l'eau, non? Et des substances pour les plantes. On peut apporter et l'eau et des substances pour nourrir ce désert-là et faire fleurir ce désert-là. Très important. J'ai dit l'Afrique est capable. Africains, nous en sommes capables. Et j'ai dit, osons. l'histoire de l'Afrique là, pour devenir autre Africain et non plus les Africains que les autres ont fait. C'est à cause du système colonial que nous sommes faits comme ça. Modifions le système et ça changera. Voici mes trois derniers mots. L'espoir. Si quelqu'un se suicide, il a perdu quoi? Madame, demoiselle, il a perdu quoi? L'espoir. Si vous perdez l'espoir, vous êtes mort. Si l'espoir est perdu, vous êtes mort. C'est terminé pour vous. Si quelqu'un perd l'espoir, il ferme les yeux et il se coupe la gorge. Il se tire un pistolet. Hitler, lorsqu'il a perdu l'espoir de gagner la guerre, il a fait quoi? C'est ça. Quand l'espoir est perdu, on est mort. Donc, la première arme avec laquelle vous allez sortir d'ici aujourd'hui s'appelle espoir. Et l'espoir a une définition selon moi. L'espoir est l'énergie du courage. Si vous avez l'espoir, naturellement, vous avez le courage. L'espoir amène au courage. Et le courage amène où? Pour moi, le courage est la force d'impulsion de l'audace. Si vous avez le courage, vous osez. Osez alors. Et nous ne serons plus jamais les Béninois d'aujourd'hui dans 50 ans. En 2060, nous devons tenir un autre langage. Pour arriver à ce mi-siècle, nous nous sommes arrêtés pour dire non à l'ancien système. Et nous sommes devenus autres. C'est pourquoi l'Afrique est remplie. J'aimerais voir, j'aimerais être ce vieux en 2060 pour voir l'Afrique autrement. Pour dire, il y a 50 ans, j'ai tenu à l'université de Calavi un discours. Et voilà les fruits. Vous en êtes capable?
Oui.
Merci pour le temps et merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Je vous ai tenu longtemps, hein. Toutes mes excuses. Et j'ai remarqué que vous n'êtes pas fatigué. Merci. Je pense que j'ai soulevé beaucoup de questions. Et vous devez poser des questions pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Et j'ai un site personnel, agonvalentin.fr ou .com. Vous y allez dessus, vous allez voir tout ce que je fais. Et télécharger mes réflexions et ce que je fais. Je vais même mettre en ligne tout ça là. Et même l'audio de ce discours, vous aurez pour télécharger. La vidéo aussi, vous en voulez. C'est pourquoi mon studio est derrière pour enregistrer tout. Vous pouvez avoir sur CD ou sur tout ce que vous voulez pour regarder, revoir. D'accord? Voilà. Je vous écoute. Pour organiser, et malheureusement des questions, je vais laisser le soin à Eric pour prendre ranger ou pas. Je ne sais pas comment tu vas procéder. Ok, ça y est. On va faire une première liste pour répondre à ces questions.
La première rangée.
Daniel.
Afolabi. Oui. Adjaillon.
Il a l'air réussi.
Oui.
Oui.
Ah.
Ok.
Adjaillon. Brigitte.
C'est bon. Oui. Tu prends la cassie parce que
c'est. Le prénom? Sidouane. Oui.
Des questions. Nous parlons de quoi?
Adam. Adam Zounos. Vidas.
Ok. Donc on communique. Oui, on communique. Merci beaucoup.
Oui. L'eau. Le fruit. Igor. Oui. Hein? À Nagonu.
Oui. Le prénom?
Vivens. Oui. Glele Junior. Oui. Zuno, Gilles. Zundi, hein. Oui. Laga. Singer. Kaka. Angelo. Carnesu Angelo. Jérôme. Oui. Ézéchiel. Chakran. La Chabie. Sabio. Oui. Dessous. Ok. Souton, Pascal. Masere.
Victor. Victor Kounoudji. Justin Bravo, c'est fini. Donc, nous allons démarrer. Et quand quelqu'un pose sa question, on répond en même temps. Pour que les autres puissent voir si ils peuvent se retrouver par rapport à leur question. Et là, ils pourront passer. Et il y a Daniel Afolabi. Oui.
Merci beaucoup, je vous remercie, le vainqueur et le motivateur pour l'enseignement du parlement. En fait, j'avais une question de plus importante. Parce que pour finir, ce que j'ai pu résumer, c'est que l'intégration et la prise de conscience, c'est-à-dire le changement de mentalité, est la meilleure solution face aux problèmes que nous les habitons. Nous vivons actuellement. J'aimerais demander si réellement c'est l'intégration et le changement de mentalité, autant plus que nos dirigeants, ceux qui se lèvent contre la pauvreté et les colons, c'est-à-dire la pauvreté, pas des pays francophones, ils sont malheureux. Je donne l'exemple de Laurent Gbagbo et sa politique. Je donne aussi l'exemple de Yadis Kamara qui sert beaucoup avec le président et qui a été en train de. Comment passer dans la semaine du 27 septembre, il a été diabolisé sur les médias. Et par la suite, nous avons vu les Africains sont contre le Brexit, ils lui font la fin. Pensez-vous que réellement nous pouvons lutter parce que nous devons avoir l'indépendance avant que le démarrage, avant que le développement se fasse. Pensez-vous que la France de l'autre côté peut nous laisser acquérir cette indépendance-là? Et concernant nos affaires politiques, la deuxième, c'est que nous voyons, de par les détournements, de par la mauvaise gestion, je pense que c'est aussi ça qui est à la base du sous-développement que nous avons aujourd'hui. La doléance, c'est que. Nous qui sommes encore étudiants, nous qui sommes à la phase option économique et gestion, nous disons, nous avons envie de nos rêves de travailler dans les administrations, d'être ministre de l'économie. Et de l'autre côté, nous disons, nous, malgré le soutien que nous avons sur le camp, nous ne pouvons pas aller là-bas et voir l'argent ne pas détourner.
Merci beaucoup. Je te retourne une petite question. Est-ce que tu as jamais vu un prédateur laisser sa proie? Hein? Qu'est-ce que la proie fait?
Après avoir capturé la proie,
il est bon. Maintenant, pour s'échapper, qu'est-ce que la proie fait? La proie se défend. Voilà! Aucun prédateur ne laisse échapper sa proie ou n'abandonne sa proie. Non, le prédateur, même s'il capture sa proie, il est là, il regarde la proie. C'est ça. Tu te retrouves dans ma question. Si il nous revient, comme je l'ai dit tout au long de ce discours, que nous devons nous battre. Et tu as sorti un mot. Que tant qu'on n'est pas indépendant, on ne peut pas se développer. Pour moi, il y a 5 concepts importants. Et je pense que c'est le troisième ou quatrième que tu avais sorti. Il faut d'abord aimer sa patrie. Il faut le patriotisme, l'amour de sa patrie. Il faut qu'on soit dévoré par l'amour de sa patrie. On doit être dévoré. La flamme qui doit brûler dans notre cœur, c'est l'amour de notre pays. Et s'il y a l'amour de sa patrie, on s'unit. C'est le second concept, l'unité. C'est l'amour de la patrie qui conduit à l'unité nationale ou continentale ou régionale. C'est l'amour de la patrie qui conduit. C'est-à-dire le patriotisme conduit à l'unité. Et si on est unis, on lutte pour être indépendant. Ceux qui chantent l'homme nouvelle, décomposer notre hymne national. Voyez le poids de chaque mot. Le poids de chaque mot dedans. Nous sommes inconscients du contenu de notre hymne. Méditez notre hymne national. Si vous, lorsque vous allez finir de méditer, vous serez révolté. Vous serez révolté. Méditez notre hymne national. Et vous verrez. Prenez chaque phrase. Chaque phrase. Vous allez voir que c'est très important. Alors, l'amour de la patrie, le patriotisme conduit à l'unité. L'unité conduit à l'indépendance. Aucun être dépendant ne se développe. Aucun être dépendant ne se développe. C'est l'indépendance qui se conduit au développement. Et le développement vous donne un poids. Le développement vous conduit à la souveraineté. Vous n'êtes plus manipulé par les autres. Quand on aime sa patrie, on s'unit. Quand on s'unit, on devient indépendant. Et quand on est indépendant, on se développe. Et quand on se développe, on devient souverain. C'est ça, la logique est très claire. La logique est très claire. Quand nous sortons de cette logique, n'attendez pas que nous ayons un poids. Quand nous sortons de cette logique, n'attendez pas que nous soyons puissants, souverains. Non. Vous avez compris? Quand on aime son pays, on n'aimera pas la corruption. L'amour de la patrie résout beaucoup de problèmes. Je pense que les hommes politiques comprennent bien l'état d'alliance. Mais il faut qu'ils rentrent dans la logique des cinq concepts-là. Et tous les problèmes que tu évoques et que nous évoquons ici seront réglés. On peut aller à la deuxième personne.
La parole à Jayon pour sa question ou ses questions.
Merci beaucoup. Je pense que j'ai parlé largement du système éducatif, de son contenu, du contenu et de la méthode même. J'ai même emprunté quelque chose du système éducatif finlandais que j'ai amélioré. Je pense que j'ai tout dit là, au niveau du système là. Et l'innovation, c'est développer la curiosité. Chaque fois que les étudiants vont faire la recherche, on les envoie vers nos réalités, nos problèmes. Ils vont interroger nos problèmes. Ils vont interroger nos réalités. Et en interrogeant nos réalités, ils vont tenter de répondre à nos problèmes. Et les mémoires seront utiles, très utiles. Très, très utiles. C'est ce que je pense. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai dit, je suis le produit de l'école nouvelle, n'est-ce pas? C'est le Bénin qui a semé ma graine.
Et ce que le Bénin a d'Abi Palu, c'est ce que j'avais l'acquis, mon prérequis au niveau section Fabakobe pendant la révolution. On peut dire que la révolution a été mauvaise, mais Abi Palu n'est pas mauvais, non? Abi Palu, c'est le produit de la révolution de Mathieu Kérékou. Un système ne peut jamais être parfait, mais ça produit il y a des produits, de bons produits, qui se montrent, qui se révèlent plus tard. C'est comme le changement maintenant de Boni Yayi. On ne verra ses fruits que plus tard. On a mis tous les enfants à l'école depuis l'avènement du changement. Vous verrez plus tard les fruits de ce changement. C'est comme ça. Donc, en réalité, le Bénin, c'est pour le Bénin Abi Palu. Maintenant, c'est pour l'Afrique. Mais c'est ma curiosité, suscitée par les systèmes éducatifs. Votre chose là me dérange là. C'est bon. Ma voix porte haut pour que vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Vous m'entendez là-bas, non? Ok. Donc, j'ai dit, les systèmes éducatifs au travers desquels j'ai pris m'ont transformé. C'est ce que tu veux dire. Que ce sont les autres qui m'ont fait. C'est ce que tu veux dire. Pas entièrement. Pas entièrement. C'est soi-même qui se fait. C'est soi-même qui se fait. C'est pourquoi il dit, vous êtes les acteurs de votre devenir. C'est soi-même. Soyez curieux seulement. Développez la curiosité et tout ira bien. Vous verrez. La troisième personne,
J'adore Brigitte.
Si quelqu'un a trouvé une réponse à sa question, la personne peut passer seulement. Mais je veux écouter la dame. Oui. Merci beaucoup. Alors, mon processus, comment j'ai fait? Et je suis revenu de la France avec 510 000 d'économies. Arrivé à l'aéroport d'Abidjan, j'ai dépensé 3 000. Donc j'étais arrivé à l'aéroport de Cotonou avec 507 000. Arrivé à Boïcon, j'ai acheté une moto à 320 000. Hein? Le reste, j'ai commencé pas à utiliser. Mais je me suis dit, il n'y a pas de travail, il faut se créer quelque chose. Dans le passé, j'avais déjà fait une formation à Songhaï. J'ai lancé une petite entreprise, 10 poules, 2 coques, achetées au marché de Tenji. Produit, faire autrement les choses, ne plus faire comme tout le monde. Mes poules pondent, j'ai respecté le ratio. 5 poules, 1 coq, pour que les œufs soient à un haut pourcentage fertile. Et j'ai lancé, c'est comme ça, avec ce poulailler de 12 animaux, c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise. Arrivé en fin 95, j'avais déjà beaucoup de poussins. Mais j'ai dit, les poussins, les poulets ne sont pas les seules volailles acceptées au Bénin. Il me faut aller vers les pintades. J'ai été acheter des œufs pour donner aux poules. Je ramasse les œufs de poules, je leur cède les œufs de pintades pour l'éclosion. Et pour dominer, pour bien domestiquer mes pintades, après 5 jours d'incubation, j'introduisais les œufs de poule pour que l'éclosion ait lieu le même jour. Parce que les pintades, c'est 26 jours, les poulets, c'est 21 jours. Comme ça, à coup de sifflet, j'ai rendu très docile mes pintades, parce que les pintades ont toujours l'instinct sauvage, ont toujours tendance à fuir. Et à coup de sifflet, tous mes animaux volaient comme ça et étaient dans ma cour. Je ne coupe jamais, je ne coupais jamais les ailes aux pintades. Mais les pintades pondent dans la maison. Et c'est comme ça que j'ai développé ça. Et en même temps, j'animais certaines fermes à Abomey pour avoir un peu d'argent investi dans ce que je fais. Mais une nuit, les voleurs étaient venus tout détruire. Tout était emporté, mais j'avais encore une autre corde à mon arc. J'ai fait 10 jours chez un monsieur, je vous ai dit. Sa fille est venue ici. Ces 10 jours, comme il est apiculteur, j'ai appris à faire aussi les abeilles. Donc, le reste de mes. Il me restait 16 pintades sur les 1500. J'ai investi, j'ai vendu les 16 pintades pour fabriquer des ruches. Et rapidement, j'ai mis en place une petite ferme. Une petite ferme d'abeilles, une ferme apicole à Dija, où j'étais avec ma femme et notre aîné. Alors, je ne pouvais plus rien faire parce que le miel ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut attendre une saison entière. Je m'étais replié à Boycon, laissant ma ferme là-bas, sollicité par Jéram, une ONG. Créé à l'université ici, hein. C'était monté ici et installé à Boycon après, pour donner des formations aux gens, à Ketou, à Mohonani. Et donc, l'argent de ces prestations m'ont permis de relancer maintenant ma production, mais en faisant en sorte que je produise les couveuses. J'ai dit, il faut être curieux. En France, la petite ferme de l'école, j'ai travaillé dedans parce que j'ai déjà fait le Songhai avant d'aller là-bas. Dans cette ferme-là, dans cette petite ferme, c'est moi qui animais, qui suivais la couveuse. Donc j'ai bien regardé comment cette couveuse fonctionne. J'ai pris un carton, j'ai fabriqué moi-même une couveuse, mis le système de chauffage, j'ai essayé avec des œufs, les œufs ont écroulé. J'ai eu les poussins. J'ai dit, tiens, je peux alors améliorer cette affaire. J'ai été fait trois heures à la menuiserie pour apprendre à raboter et à scier. Et j'ai acheté, le surlendemain, tout ce qu'il faut pour la menuiserie. J'ai dépensé 25 000 pour acheter ma scie, mon rabot, tout et tout. Et je m'étais mis à fabriquer ma propre couveuse. J'ai essayé, ça a marché. J'ai été à l'exposition de Pouillet Songhaï en 96 et j'ai eu le grand prix avec ma propre couveuse. Je faisais 120. J'ai évolué, j'ai essayé de voir est-ce qu'on peut mettre un système. J'ai appelé un technicien, un électricien. Je veux mettre un système électrique dedans. Et pendant mon stage en Belgique, j'ai acheté des régulateurs. À la température qu'il faut, il coupe le courant. Et puis, ça relance quand la température baisse. J'ai remarqué que dans la couveuse, à chaque centimètre, il y a variation d'un degré. Donc j'ai placé la sonde qui régulait la température. C'est comme ça que je suis devenu producteur de couveuses. Et en 97, j'ai vendu pour plus de 2 millions de couveuses. Les couveuses m'ont permis de louer toute une villa à Boycon. Et c'est comme ça que j'ai pensé autre chose. Alors, je me suis dit, il faut chercher un peu sur les plantes. D'accord, j'ai eu des moyens, il faut chercher sur les plantes. J'étais reparti en Belgique pour faire un stage en apithérapie. J'ai fini le stage, j'étais le premier de la promotion avec 96 sur 100, c'est-à-dire 19,2 sur 20. Le responsable de l'école, très content, il m'a ouvert la voie de l'Allemagne et de FAO. Que le premier, on l'est toujours. Vous voyez, le premier doit toujours avoir une surprise. Il m'a mis en contact avec FAO. FAO m'a dit de proposer un projet. J'ai proposé un projet d'apiculture des abeilles dans les 6 départements du Bénin.
le total était de 210 millions. Donc je me suis associé avec des collaborateurs et l'AFVP, l'Association française des volontaires de progrès au Bénin ici là, sont vers place de Mati là, ils étaient en place de Mati. Ils ont voulu aussi aider dans le projet avec 129 millions. J'ai été aidé par les Néerlandais pour soutenir ce que je faisais là, avec 22 millions. Nous n'avons eu que les 22 millions des Néerlandais qu'on devait fabriquer des ruches, donner aux paysans, à 700 paysans, et ces paysans vont nous payer la moitié de leurs investissements pour le développement de notre entreprise. Mais mes collaborateurs, comme beaucoup d'argent venait là, sur les 22 millions de Hollandais, on n'avait eu que 6 millions au premier financement. Et il y a un collaborateur qui a dit, il faut qu'on partage d'abord 1 million. J'ai dit, non, on ne va pas partager, et c'était le problème. Et ils ont écrit à tous les partenaires au monde. Et j'ai perdu les 210 millions de FAO. J'ai perdu les 129 millions de AFVP. Les Hollandais ont bloqué le reste de l'argent par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Et je n'avais plus rien. Tout était bloqué. La source de l'argent était coupée. J'ai vendu ma terre à Boïcon et la terre de ma maman pour prendre l'avion et aller négocier avec les partenaires. Mais personne ne me regardait en Europe. Parce que mes collaborateurs ont écrit. Donc, ils ont écrit, ils m'ont quitté. Le ministère de. On a été. C'était plein. C'était le temps du ministre Ati. C'était plein au ministère de l'Intérieur. Et puis, bon. Lorsqu'on était là-bas, moi, j'ai demandé aux partenaires d'envoyer des gens pour vérifier ce que les autres ont dit. Trois Belges étaient arrivés, envoyés par les Hollandais. Ils ont évalué tout. C'était du mensonge. Donc, j'ai présenté leur rapport au ministre de l'Intérieur et on les a chassés de mon groupe. Ils sont sortis à jamais, mais les bailleurs n'ont plus donné l'argent. C'est déjà perdu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout ce que j'avais commencé avec Deepool allait finir. J'ai décidé de ne pas finir. Il ne faut jamais accepter la fatalité. Il ne faut jamais dire que c'est fini. Pour moi, il n'y a pas d'impossible. Il y a toujours une brèche, quelque part passé, vous allez réussir. Alors moi, j'ai dit, j'ai encore une autre corde à mon arc. J'ai été 3 ans président de la pharmacopée. Nous allons transformer maintenant nos ressources. Que le miel, pour faire le miel, les abeilles vont d'abord vers les plantes. Allons, les plantes aussi, et voyons si nous allons traiter des maladies. Et donc, ça y est. Et pour moi, j'ai été chercher alors du savoir-faire. J'ai été même au Cuba pour chercher le savoir-faire. J'ai attaqué les deux grandes maladies, le sida et le paludisme. Le sida, parce que j'ai perdu un beau-frère, la manière dont il était mort là, ça m'a frappé. Il fallait chercher une solution à ce problème. Et comme il y a beaucoup de plantes antivirales, les plantes qu'on prend, qu'on prend quand on a rougeole, quand on a varicelle, c'est des plantes antivirales. Curiosité me poussant, il fallait faire boire à des malades de sida les plantes antivirales, c'est-à-dire les décoctions, les tisanes, pour voir l'effet. J'ai essayé, effet extraordinaire. Extraordinaire. J'ai couru à l'hôpital CAD Gorobudi, j'ai trouvé quelque chose qui donne un peu la santé aux malades de sida. Le médecin a dit, c'est vrai, que j'ai deux qui vont mourir là. En même temps, Tatizan va voir, le professeur Toyon de l'Université de Parakou. Il m'a dit ça. J'ai été à la maison. J'ai travaillé sur 40 plantes au départ. 40 plantes antivirales. Comme il y a effet, on a donné la tisane à des malades à l'hôpital, amélioration. Une dame qui était condamnée à mourir, elle s'est retrouvée. Vraiment, c'était extraordinaire. Alors, on m'a donné encore 25 autres malades. Dans un mouroir, dans une clinique qui est derrière Aboumé là-bas. Là, j'ai divisé le nombre de plantes là en plusieurs parties pour voir quel groupe de malades va ressentir l'effet. Que tout donne. Vous comprenez? La démarche, la méthodologie. Le groupe qui qui a été sensible. J'ai dit, c'est dans ce groupe qu'il y a la plante qui fait le feu. Et donc, j'ai réparti alors par plante la tisane. Et c'est une seule personne qui a senti le feu. Donc voilà la plante. Vous comprenez? Et donc, j'ai maintenant extrait cette plante et donné à tout le monde. Et tout le monde a eu la santé. J'ai téléphoné à l'Institut Pasteur en France pour dire, j'ai trouvé quelque chose. J'ai téléphoné au ministre de la Santé, Madame Massouboji. Hein? À l'époque, en 2001. Qui m'a dit, c'est, elle m'a rappelé à 21h. La dame là, elle est très bonne. C'est une dame à féliciter. Si vous la rencontrez, transmettez-lui mes remerciements de ma part. Elle m'a rappelé à 21h. Madame, le ministre même, à 21h, pour dire c'est le ministre de la Santé en ligne. J'ai dit, ah bon? Je vous écoute, madame. Vous avez appelé mon cabinet, vous avez dit que vous avez trouvé quelque chose qui traite un peu les gens. J'ai dit oui, je ne guéris pas. Mais les gens, s'ils boivent, ils ont la santé. Elle dit, ne dis plus à personne, va déposer un brevet. Mais comment faire, mes frères? Je ne suis pas juriste. C'est un juriste qui écrit une demande de brevet. J'ai téléphoné partout, dans la Dinosa Cotonou ici là. Personne ne pouvait m'aider pour écrire une demande de brevet en 2001. J'ai téléphoné en Suisse, au siège même des brevets, pour dire, les documents là, est-ce que vous pouvez m'envoyer? Il m'a dit oui. Il m'a envoyé tout par la poste. C'est gros comme ça. J'ai quitté Boïcon pour aller rester dans un village, à Tchaourou. Là-bas, pour lire tous les documents. Je vous dis, j'ai lu tous les documents. Et c'est moi-même qui ai rédigé ma demande de brevet comme un juriste. Et c'est accepté. Et j'ai obtenu un brevet. Me comprenez? Il faut être curieux, je vous ai dit. Que c'est la curiosité. Soyez toujours curieux. Ne dites jamais que c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible. On vous trompe en disant que tel est impossible. J'ai rédigé moi-même ma demande de brevet que j'ai envoyé le 11 décembre 2002. Et c'est accepté. C'est comme ça que j'ai eu le brevet. Et j'ai fait faire le brevet dans plusieurs pays. J'ai dit, ce n'est pas fini. Il faut attaquer la seconde maladie, le paludisme. On a étudié 11 plantes. Et même procédure. Et finalement, on a trouvé une plante qui était... Pourquoi? Parce que cette plante-là, j'ai essayé de voir la tisane de mon papa. Tisane que notre papa nous faisait là. Dans cette tisane, il y avait quoi et quoi? Je vous ai dit d'être curieux. La tisane que mon papa me faisait, quelles sont les composantes? Comme j'avais présidé pour le VIH-SIDA, là, que je possède aussi, et que je décompose la tisane pour voir chaque décoction de chaque plante pour voir quel effet ça va faire sur moi-même, sur le palu, quoi. Et donc, c'était moi-même. Je me laissais piquer par les moustiques et je prends une décoction d'une plante. Et je regarde. Je fais la densité par exemple d'abord. Je prélève mon sang pour voir combien de plasma j'ai. Et après, la décoction, combien j'ai. Et c'est après avoir pris seulement pour une seule plante que tout la densité est annulée. Ça veut dire que c'est la plante là qui est anti-paludique. Et c'est quoi? C'est notre palmier à huile simple, que personne ne considère. Vous comprenez ce que je dis? Parce que mon papa mettait ça dans sa tisane. Parmi a eu anti-paludique, étonnant. On en a fait, on a appelé beaucoup de gens. Venez boire cette tisane, les gens ont bu, ça a marché. On a fait alors un petit essai clinique et rapidement, j'ai déposé un brevet le 6 avril 2004. J'obtiens le brevet, il fallait sortir un produit. On était allé, on s'approche de l'université, le professeur Masuru Mudashiru, pour étudier maintenant les composantes chimiques de cet extrait. Sur les 14 composantes, il n'y a que 2 antipaludiques. Comment faire maintenant pour concentrer les familles chimiques antipaludiques dans ce extrait de plantes? Parce que si tu fais boire seulement là, tu n'auras pas l'effet que tu veux, surtout dans une petite bouteille. Alors, on a fait des essais, on a essayé jusqu'à séparer les alcaloïdes et les dérivés quinoniques qui ont l'effet antipaludique dans cet extrait de palmier. Et on a réalisé ça, on lui a donné le nom Happy pas lu. Vous comprenez? C'est clair? Hein? Je m'étais rendu au salon de l'invention de WAPI en Bissau. C'était notre pays qui m'avait choisi. Et à la dernière minute, le ministre du commerce a refusé de payer les billets pour dire qu'il n'a pas eu le financement. Et on était devant Air Sénégal comme ça pour acheter. Le ministre a appelé le directeur de Serapi pour dire n'achète plus. J'ai dit quoi? Je dois y aller. J'ai appelé le directeur commercial, j'ai appelé tout. Rassemble-moi de l'argent un peu, partout sur les boutiques d'Api Bénéla. Et rapidement, ils m'ont rassemblé l'argent. J'ai payé le billet pour 400 et quelques mille et j'étais le seul. Arrivé là-bas, j'ai eu un prix. Je suis revenu, j'ai été rendre compte à la présidence, au conseil du président d'alors, qui est le ministre actuel de la Santé. Et j'ai changé, j'ai fait une boîte, j'ai changé la forme, j'ai rendu le médicament plus concentré. Vous voyez, avec mon équipe, ce sont mes collaborateurs. Et depuis mon retour de ce salon en 2007, Happy Palu est concentré dans une petite boîte. L'OAPI, en me rencontrant là-bas, a décidé de m'accorder un financement de 4 800 000. En fait, un crédit. J'ai pris l'argent là, 3 mois après, le 20 février 2008. Et j'ai rendu compte, j'ai produit ce qu'ils ont voulu, 2000 applis virines. Ça marche. J'ai écrit un document pour dire toute mon idéologie dedans, pour écrire toute mon idéologie. Et j'ai mis Happy Palu là, en seconde page, deuxième page, et Happy Virine là, en avant-dernière page. Vous comprenez? J'ai lancé ce livre-là le 15 juin 2008 sur Golf d'abord, et le 14 juin sur Golf, et le 15 publiquement, dirigé par Carlos. La présentation était dirigée par Carlos. Alors, ma communication a tellement saisi le médiateur de la République qu'il est venu lui-même à la présentation du bouquin pour dire qu'il est mon médiateur entre le président et moi. Il dit, ah bon? Il est remercié. Et un an après, j'étais sélectionné par l'OAPI pour aller représenter l'Afrique en Suisse. Et au dernier moment, la Suisse a refusé de me donner le visa. J'ai touché le médiateur qui a touché le consulat et ils m'ont donné le visa. J'étais au salon là-bas, j'ai présenté mes deux médicaments et j'ai obtenu 2 médailles d'or. Vous avez appris ça, non? Au retour, le président de la République a envoyé 4 directeurs de cabinet m'accueillir à l'aéroport. Avec beaucoup de bruit, hein? Vous avez vu ça? Et c'était tellement merveilleux, c'était vraiment bon. La vente à Happy Palu partout, j'ai même signé un contrat de 110 000 Happy Palu par mois avec une Haïtienne pour Haïti et Congo-Brazzaville. Vous voyez, quelqu'un d'Haïti va importer le produit du Bénin pour Congo-Brazzaville. Nous sommes moins commerçants, moins curieux. Et cette année, sélectionné par BID pour la rencontre des grands entrepreneurs en Allemagne, j'obtiens le prix Arc d'Europe. Vous avez vu ça aussi, non? C'était vraiment merveilleux. Encore au retour, ils sont venus m'accueillir pour me féliciter. Donc c'est comme ça, mademoiselle, que j'ai évolué. Mais c'est la curiosité, c'est l'audace, c'est la curiosité, c'est l'esprit du sacrifice. Tous les jours, c'est la détermination et l'ambition d'aller en avant toujours. Et vous pouvez le faire mieux que moi. Tu peux faire mieux que moi. Et si j'ai réussi, c'est grâce à 3 dames. Ma maman, grâce à sa roue. Ma tutrice, grâce à l'aide. Et mon épouse. Vous voyez? Donc les femmes... Hein? À papa, vous dites? Ah! Grâce à mon épouse, je lui laisse. On s'est mariés et 3 mois après, j'étais parti pour faire 4 ans. C'est sérieux, non? Si elle s'opposait, si elle me faisait la misère, pourrais étudier? Parce que je voulais toujours étudier. J'ai fait un an maintenant au Canada pour revenir encore. Et c'était une grâce à tous les enfants. Elle est c'est comme ça, c'est grâce à elle, non?
Oui.
C'est ça. Je pense que je réponds à beaucoup d'autres questions dans le cœur. Je vais prendre alors, il va prendre au hasard trois personnes et il va répondre pour partir. Parce que vous serez fatigué. C'est bon pour vous, non? Je prends encore une autre dame. Je prends encore une autre dame. Vous donnez beaucoup plus de place aux dames. Je pense que c'est elle. Tu as une préoccupation? Rien du tout. Il n'y a plus de dames. Il y a une autre. Voilà, elle rit. C'est bon. Maintenant, quel nom commence par A? Je prends C. Chirac. Oui.
Donc moi j'ai deux questions posées. Vous avez dit que comme tout le monde doit se faire.
Oui.
Tout l'homme doit se faire. J'aimerais savoir comment on peut se faire.
C'est le comment là que il vient de dire. C'est vrai, c'est clair, non? Moi-même là. Vous avez vu, non? C'est ça. Deuxième. Non, deuxième.
Nous avons remarqué que notre milieu actuellement est totalement politisé.
Oui.
Ça veut dire que nous avons remarqué que au Bénin, on ne veut plus réussir que par la
politique. Hein?
Parce que c'est seulement les politiciens qui arrivent à se développer normalement actuellement.
Ok.
Maintenant, comment on peut arriver à enlever ce virus?
C'est pas ce que je fais et pas ce que je suis. Pourquoi il dit ça? Dans notre pays, il y a trois industries qui réussissent bien. Vous la connaissez? Il y a l'industrie politique.
Le premier.
C'est l'industrie politique, la première. Tout le monde veut être politique. Ça ne marche pas. Est-ce que 50 ans d'industrialisation politique, ça a développé? Non, non, non. Nous avons une bonne assise politique depuis 20 ans. Allons à l'économie, au social et à l'éducation et tout s'organisera. La seconde industrie, c'est l'associatif, comme je vous ai dit. Il y a des ONG, des entreprises. Et la troisième, c'est l'industrie spirituelle, culturelle, culturelle. On danse, on chante, on danse, on chante. C'est ce qu'on sait faire. Ça marche? Est-ce que ça me développe? Non. Faut pas danser toute votre vie. Donc, ce n'est pas par la politique qu'on réussit. La politique est un facteur. Et il faut tous les autres. Vous comprenez? Dans l'équation, j'ai cité la politique, non? Ce n'est qu'un facteur. C'est là. Regardez Sankara, il a fait 4 ans pour modifier le cours de Burkina. Au Burkina qui est saharien, désertique, envoie de légumes au Bénin qui est côtier. Vous ne voyez pas? Paradoxe. Un pays désertique envoie de légumes à un pays qui a de l'eau et qui est même inondé. Un pays inondé reçoit de légumes d'ailleurs. Mais mes frères, il y a une question à vous poser. Donc ce n'est la politique, oui. Mais la politique en toute chose, non. Vous me comprenez? Hein? La politique, si un corps n'a pas de tête, là, le corps n'existera pas. Le régime, c'est la tête. Donc c'est comme ça. Et pour ce faire, c'est comme ce que je fais. La méthode et l'action, c'est ça. Oui, je vais prendre le monsieur là, en dernière position, et nous allons. Vous allez devoir rejoindre vos places, et moi-même, je dois aller déjeuner. Oui? Junior Glélé. Glélé, hein? Quelle chance d'avoir un Glélé devant moi. J'ai parlé de Guézo, de Glélé et de Bernard. Tu as été fier. Et si on est fils de Glélé, on doit être. On doit être. Si on est fils de Glélé, on doit être. Non. Je dis, on doit être patriote. On doit être comme Béanzin, un patriote. Je vous écoute, monsieur Gleret.
Qui sera un cercle de pression de la liste de politique de développement, dont vous serez d'office préparé. Ce cercle aura pour mission de développer la curiosité, nourrir vos idées, développer la curiosité, nourrir vos idées, de pousser vos œuvres, c'est-à-dire, on va créer une génération à Franck-Valentin, c'est-à-dire une suite d'analyse à Franck-Valentin, pour marquer l'histoire. Pour afficher votre nom, pour inscrire votre nom dans l'histoire. Parce qu'une bonne personne dans le trop faible de pays. Donc c'est plus moi ma vision. Si on peut installer sur le temps plus la génération à commenter, c'est-à-dire des personnes, c'est-à-dire une grande idée qui va la vie. Je pense que d'ici, c'est quand on va arriver ce pays-là. Et moi je suis prêt. Plusieurs fois je vous ai dit, on s'est rendu plusieurs fois, je vous ai dit que je partage entièrement vos idéaux. À chaque fois que j'ai vu un projet, ça va dans vos idéaux. Et je suis prêt à être à votre côté.
Et vraiment qu'on met sur pied cette génération, à ton grand-père, pour marquer comment, pour trier l'histoire. Qui sont ceux qui sont d'accord? Ah bon? Que vous voulez une institution à ton
grand-père? Parce qu'on ne veut plus le système bureaucratique, on veut être en dessous de la femme. C'est ça qu'il nous faut en tout cas. Il faut unir le système bureaucratique dans la tête. Quoi. Il faut entreprendre ça. Et ma souveraine, tout cela.
Alors, je vais vous retourner quelque chose. Et ce n'est pas, ce n'est pas mon nom qui est important. Je fais moi-même mon nom. Oui. Vous comprenez? Hein? Je suis moi-même mon nom. Je fais moi-même mon nom. Si mon nom a été pour quelque chose, j'applaudis, d'accord? Mais non seulement, si vous réussissez à créer un cercle de ce genre, je vous aiderai financièrement et encore autrement. Autrement, je mets tout ce qu'il faut pour que l'histoire soit marquée. Pour que je puisse savoir, il y a des gens qui vont me dépasser. Des gens qui veulent et qui vont me dépasser. Moi, je ne m'arrêterai pas, hein. Mais je veux qu'il y ait des compétitifs qui me dépassent. Parce que dans ma tête, tous les jours, je réfléchis. J'ai déjà le projet d'installer une usine de transformation de l'argile de serre en carreau. À serre. De même à Dija. De même à Agbaïzon. De même à Massy. Vous voyez? Pour toujours dire que nous pouvons transformer nos ressources. Au moment où tous mes collaborateurs avaient coupé tous les ponts financiers autour de moi, si j'avais croisé les bras, c'était fini, non? Mais j'ai dit, le développement, c'est de pas soi-même. Plus jamais j'ai écrit une demande de financement. Plus jamais. Plus jamais. Mais c'est moi en retour qui finance des choses. Nous finançons même des choses en Europe. Nous envoyons de l'argent pour faire des choses ailleurs, en Afrique. Nous finançons des choses dans ce pays. J'ai même lancé une idée, financer les études dans la filière et pharmacie, c'est-à-dire recherche sur les plantes. Je ne trouve pas de candidat. Financer des gens en matière d'économie qui réfléchissent sur quelque chose de local. Les gens, ils sortent toujours, ils ne sont pas dans le cadre qu'on veut. Vous voyez? Donc si vous mettez sur pied le défi que je voudrais vous lancer, si même vous qui êtes ici dans cette salle, si vous pouvez vous réunir après réfléchir à ça et mettre sur pied quelque chose comme ça, je vous soutiendrai, je vous apporterai les moyens pour que vous puissiez me dépasser. Me dépasser, je le dis, hein, il faut que vous fassiez tout pour me dépasser. C'est un défi, vous êtes nombreux. N'est-ce pas, madame? Vous pouvez me dépasser. Faites tout, battez-vous pour me dépasser. Et vous verrez que le Bénin sera meilleur. Je pense que les organisateurs devaient se faire passer une... Comme je vous l'ai dit, toute notre rencontre a été enregistrée en vidéo et en audio. Moi, mon petit appareil a fait 69 heures d'enregistrement. Donc, elle n'est jamais fatiguée. Alors, on vous transmettra, on mettra sur le site et à gonvalentin.fr les références pour télécharger le fichier. Ou si vous voulez, vous m'envoyez un mail à gonvalentin et puis vous avez une réponse. J'ai plusieurs adresses mail, mais qui tombent, tout tombe dans une même boîte. agonvalentin@agonvalentin.com, ça tombe chez moi. agonvalentin@yahoo.fr, ça tombe chez moi. Ou bien av@agonvalentin.com. Vous ne pouvez pas oublier tout ça là. Hein. Et vous demandez ce que vous voulez, et puis on vous envoie ça. Oui, il reste une seule personne, n'est-ce pas? Après, ce que Gléry a apporté là, je le félicite. Hein? Tu as parlé vraiment comme un patriote. Un véritable patriote, c'est comme ça. Et nous sommes tous fils de Gléry. Parce que nous sommes tous béarnais, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je prends sa dernière question, vous m'excusez. On peut échanger par mail. Écrivez-moi, je réponds. Je réponds toujours. Et en écrivant, ajoutez UAC. UAC quoi? La rencontre UAC. Je saurai que c'est vous. Oui?
Merci. Bon, très cher respecté. Bon, d'abord, je n'ai pas de discours, mais j'ai des questions.
Oui.
Et comme je le dis, quand je vous ai vu à la télé, j'ai pleuré. Si j'avais des frères, ils vont témoigner.
Ah oui? J'ai pleuré
parce que je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des débats comme ça? C'est que durant tout le temps que j'ai vécu, avant de vous voir la télé, je n'ai pas vu des débats comme ça. Moi, je le dis et je suis dans le train de le dire. C'est moi qui parle. Le jour où j'ai un jour vécu, que ce soit dans les différentes éditions, quand j'entends parler de Valentin Agon, je laisse le cahier là et je suis en mission là d'abord. Parce que pour moi, c'est un grand motivateur. Merci beaucoup pour la chance que nous avions balancé en compte devant les économistes de la Fazer. Bon, la question est, est-ce que le fait que l'Afrique devenait endettée, est-ce que cela favorise l'intégration selon vous? Le fait que le Bénin est endetté, est-ce que cela favorise l'intégration? Est-ce que si on veut faire l'intégration, on ne va pas nous dire, attention, avant de faire l'intégration, payez-nous nos dettes d'abord. Et après, vous avez l'intégration. Donc voilà. Le fait que, au niveau de CEG, je ne sais pas si vous connaissez cette faculté-là. CEG, c'est chimie, biologie, géologie. C'est des gens dans votre domaine qui vous sont utiles. Mais nous constatons qu'au niveau de CEG, les gens ne font pas soutenance. Ça veut dire quoi? Quand tu finis, tu sors. Donc, s'ils ne soutiennent pas, c'est eux qui étudient les plantes. Moi, je ne connais peut-être rien en cela. Donc, c'est eux qui étudient, c'est eux qui apprennent les choses là. C'est eux qui apprennent la terre, tout ça, c'est à eux qu'on confie nos richesses terrestres. Donc, quand ils finissent, ils ne soutiennent pas. Donc, à vous de voir, c'est la question de savoir aller chercher et aider, si possible, comment faire que ces gens, de l'autre côté, ces métiers puissent commencer par soutenir. Parce que c'est seul de leur niveau qu'on peut avoir les créations et nous les économies sont vaccinées ou bien entreprises. Maintenant, troisième question. Voilà. Et j'aimerais aussi vous demander aussi une chose. Allez chercher à savoir comment les polytechniciens sont recrutés. Les polytechniciens, c'est que les gens, aujourd'hui vous parlez de transformation. Vous ne pas qui est là. C'est la technique, transformation, toutes sortes de choses qui sont au domaine là. C'est eux qui font ça. Mais allez chercher à savoir qui sont ceux qui recrutent. Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont motivés ou bien c'est des gens, comment ils sélectionnent? Et aussi, quand ils finissent de soutenir là, où est-ce qu'on dirige leur pensée? Moi, je me souvenais de l'année passée, ou bien cette année, il y a un frère, quelqu'un ici, et son frère a soutenu dans le génie électrique.
avec abolie, hein?
Oui, avec abolie. Il a reconnu ça. Je pense qu'il n'est pas ici. Sinon, c'est son grand-père qui a fait ça à l'UPA. C'est ça. Donc, après cela, quatrième question.
Ah bon, tu as une quatrième?
Je tiens à vous dire encore que la paix, c'est sûr, bien que n'importe quelle affaire ne vous découvrez pas pour ça. Même nous, les étudiants, même si c'est le 1000 francs, c'est comme pour nous mettre sous. Les étudiants ont déposé malgré que à ICC.
Ah bon?
Donc, ça a été beaucoup de choses. C'est pas c'est pour dire quoi? Même le contraire, on ne dit pas ne discriminer pas quelqu'un. Vous pouvez venir sur le campus ici, je vous beaucoup d'argent. Donc, ça a été nous.
Merci beaucoup. Je te félicite. C'est quel nom?
C'est Igor Lopi.
Igor Lopi.
Lopi Igor.
Monsieur Igor, je te félicite et te remercie. Et puis j'ai été vraiment touché par l'émotion que tu éprouves en m'écoutant à la télé. Hein? Toutes tes questions sont utiles. Et tu es brûlé dans ton cœur là. On voit que tu es enflammé. Et il ne faut pas que cette flamme s'éteigne. Cette flamme doit brûler tout le reste du Bénin. Alors, pour l'intégration, les dettes constituent un obstacle, comme tu le remarques. Les dettes, si on est trop endetté, et ton... Je ne sais pas. Par rapport à la Banque mondiale, nous devons des milliards. Hein. Et chaque année, on paye un peu. Et ça s'ajoute en même temps. En fait, on ne paye rien. Parce que quand on paye, on consomme encore beaucoup plus de dettes qu'avant. Et ça évolue toujours comme ça. C'est un problème. J'ai donné l'exemple de la route là, donc, il y a 15 ans. Donc, c'est très difficile. Mais osons revoir les choses comme je fais là, comme je dis là. Et on peut sortir. Et s'intégrer, se réunir là, les obstacles ne sont pas vraiment financiers. C'est dans la tête. C'est sur papier même. Il suffit qu'on se réunisse là, à l'Union africaine, là-bas, on décide. Vous serez étonné de progrès. Qu'on se mette ensemble. Là. Et donne l'exemple de football seul. Hein. En économie aussi, en tout. Mettons une compagnie aérienne ou ouest africaine en place et vous verrez l'argent qu'on va garder dans notre zone. Vous aurez tous des emplois. C'est tellement simple. Ce sont les décideurs politiques qui doivent prendre cet élan-là. Mais ils ne le feront jamais si à la base, nous ne faisions pas une pression. Il faut qu'à la base, qu'on demande, qu'on exige, qu'il y ait une pression de la base. Ça arrivera. CBG, pas de mémoire, excusez-moi, je suis pas là pour juger l'université. D'accord? Mais je dis que c'est scandaleux. Parce qu'on n'a rien quelque part pour le produit de ceux-là. Peut-être c'est pour alléger un peu les choses. Mais biologie, chimie, géologie, il faut qu'il y ait un mémoire. Il faut qu'il y ait une soutenance. D'accord? C'est parce que le système est fait comme ça qu'il n'y a pas de mémoire. Dans la révolution du système dont je parle là, il doit avoir de mémoire. Et ceux-là qui travaillent sur la géologie, sur le sous-sol, regardez-moi maintenant, je chauffe la terre rouge pour quantifier le fer dedans. Et je ne suis pas géologue. Hein? Donc, c'est ceux-là qui vont développer la curiosité pour voir qu'est-ce que ça donne. On doit développer la curiosité à leur niveau. Vous me comprenez? Et ils doivent inscrire cette curiosité dans leur mémoire. La biologie, ils doivent avoir un mémoire. Ils doivent soutenir. Mais ces métiers aujourd'hui là, sincèrement, entre nous ici, si on sort là, on est utile à quoi? Donc nous pouvons définir, on va garder ce que nous avons déjà, hein, mais ajouter un contenu pratique. Vous me comprenez? Ajouter un contenu pratique au système à ce niveau seulement, et ceux qui sortiront ne seront pas seulement à la craie, mais pourront faire beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai installé un laboratoire d'insémination artificielle des abeilles. Je n'ai pas pu avoir quelqu'un pour animer ça. Moi-même, j'ai été faire la formation. Inséminer l'abeille. Prendre le sperme de l'abeille mâle, en donner à la reine et choisir sélectionner la race, une race douce. Vous savez que par les mâles là, des abeilles, il n'y a pas un accouplement avant le mâle. Non. L'œuf au mâle, c'est l'œuf pondu sans qu'il y ait un spermatozoïde en réalité. C'est la cellule qui a évolué de lui-même. Vous comprenez, c'est celui qui a évolué de lui-même pour devenir imago. Et donc ça concerne, les mâles sont une réserve du caractère génétique de la maman. Sans mélange. Il n'y a aucun mélange. Donc si on prend un mâle d'abeille là, c'est une réserve d'une reine donnée. Et donc si on veut une source douce, on supprime, on oublie la reine à pondre sans avoir fait le vol nuptial. Et on n'a que des mâles qui sont de son caractère. Donc une reine d'une souche douce. Et on va chercher loin une autre souche douce. Et on prend la reine là, et on prend le sperme de l'autre souche douce, et on mélange et on inocule à la reine anesthésiée avec le CO2. Quelques minutes après, la reine se réveille et les œufs qu'elle va pondre, c'est rien que pour donner des abeilles douces. Des abeilles qu'on veut manipuler. Et aussi, j'ai fait ça, j'ai créé une station. Mais il n'y a pas un produit de CBG utile à ça. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas un produit de CBG utile à ça. Le seul que j'ai pris, ça n'a pas marché. J'ai dû laisser la station. Vous me comprenez? Donc c'est comme ça qu'on va définir un contenu nouveau, pratique, pour que ceux-là, que ce problème soit réglé. Et pour les polytechniciens, c'est la même chose. Former, et surtout l'exemple que tu as donné là, ces choses-là, les plans ne laissent pas. Celui qui fait démarrer l'ordinateur avec la boulie là, le poisson qui laisse une décharge là, c'est ça non? Oui. Quand vous touchez là, il y a une décharge électrique qui rentre dans votre... Oui. Ça veut dire qu'on peut faire tout un étang pour sortir de l'électricité, vous voyez, non? Si le jeune a pu faire ça, on peut créer un étang et faire sortir de l'électricité. Si ça démarre, un ordinateur, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup. Et celui qui a créé un système qui a allumé une seule ampoule en Corée du Sud, j'ai dit ça dans mon discours. Son pays l'a aidé, c'est devenu la source d'énergie pour tout le pays. Et vous savez ce que les gens, les Occidentaux lui ont proposé? L'Amérique a proposé, non, à Corée du Sud, non, on va vous aider avec des systèmes, on a ceci. Le président coréen a dit, non, laissons-nous évoluer avec, bricoler avec ce que nous avons là. Et aujourd'hui, c'est devenu leur grand système. Si vous refusez le bricolage, vous ne vous développerez jamais. C'est d'abord le bricolage. Donc le bricolage que le jeune a fait, on doit améliorer, et nous allons inventer un système nouveau d'énergie. Vous voyez? Mais tu dis que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Il va faire un doctorat, et puis c'est grave. Et pour tes conseils pour les 1000 francs, je réfléchirai. Je continue de réfléchir encore. Parce que le contexte ici, ça ne permet pas vraiment pour se respecter les autres. Et ce que nous avons compris, c'est pourquoi nous voulons créer une société anonyme pour que des gens soient actionnaires. avec 50 000, on peut dire être actionnaire dans cette société pour les industries que je voudrais installer à Serre, Djidja, Massy et autres pour faire les carreaux. Il faut que les jeunes soient actionnaires dedans et ensuite aussi employés dedans. C'est ce que nous voulons faire. Mes chers frères, je suis vraiment séduit par votre enthousiasme, par votre volonté, par toute l'émotion que vous avez manifestée. Et je suis vraiment satisfait, satisfait parce que je suis maintenant convaincu qu'il y a une génération qui monte. La génération. Donc je suis fier. Ne le dites pas seulement dans mes oreilles. Soyez pratique. Soyez pratique. Si vous rencontrez un obstacle, sachez que vous voulez progresser. Quand vous butez à un obstacle comme ça, là, ça veut dire que vous voulez faire un pas. Montez sur l'obstacle. Ne vous détournez pas de l'obstacle. Un obstacle est fait pour être monté. N'est-ce pas? Un escalier est fait pour être monté. Ça veut dire que les problèmes sont faits pour nous servir à aller plus loin. Les problèmes ne sont pas les obstacles. Les problèmes sont nos facteurs de développement. Les problèmes sont bienvenus quand on veut se développer. D'accord? Donc, espoir, courage et audace. Je vous remercie. Je vais faire une photo avec vous à la sortie. Ah, le reste, ça veut dire un mot, et attendez.
Okay. Chers amis, sans vous mentir, fond de mon cœur, je voudrais qu'ensemble nous remercions le directeur, malgré ses multiples occupations. Je dis bien multiples occupations, il a accepté de cet entretien avec nous. Ça nous a aidé vraiment, nous avons tiré beaucoup de choses. Mais je tiens à souligner, comme le directeur l'a dit, c'est toujours la curiosité qui m'a poussé à amener le docteur aujourd'hui. Le jour où on s'est dit qu'on va amener le directeur Valentin à monsieur le campus, entre nous, on s'est dit non, il n'aura pas notre temps. Et j'ai dit bon, on va essayer de voir. Le directeur commercial, c'est comme le droit, je l'ai harcelé avec le groupe de filles pour dire, faites tout possible pour que le directeur, M. Agon Valentin, vienne au moins discuter avec les étudiants. Et je vois que ça a été chose effective. Donc c'est pour confirmer la curiosité dont parle le directeur. Donc je voudrais que tous ensemble, nous ne remercions pas une acclamation.
Est-ce que vous pouvez faire une photo dehors?